pour envoyer des malades mourir dans leur pays. Et je cite juste le début. Pour la première fois depuis 10 ans, le gouvernement décide le renvoi de malades étrangers dans des pays où ils ne peuvent pas se soigner. L'Observatoire du droit à la santé des étrangers lance une pétition. L'ODSE demande le respect absolu du secret médical, la protection contre l'expulsion et la régularisation des étrangers ne pouvant se soigner effectivement dans leur pays d'origine, et donc le retrait immédiat des instructions telles qu'elles figurent aujourd'hui sur les sites intranet des ministères de l'Intérieur et de la Santé. Il me semble qu'un récent ministre de l'Intérieur est en ce moment même en train de débattre.
Ça glace le sang. Cela dit, si on est absolument certain qu'effectivement on renverra les malades mourir chez eux s'ils passent, mais comme il ne passera pas, celle qui va passer, puisque forcément j'appelle à voter pour elle, je pense qu'on aura peut-être aussi des comptes à lui demander, parce que les ministres de l'Intérieur du PS n'ont pas toujours été extrêmement humaniste en matière de droit d'asile et de...
Non, de toute façon, les interpellations de MDM s'adressent à tous les candidats. 3 ont répondu pour l'instant, pour aller le consulter sur le site. Et la pétition, il est possible de la signer sur le site normal de Médecins du Monde, médecinsdumonde.org.
D'accord.
Les coordonnées seront également.
Je te laisse quand même la parole, à moins que quelqu'un ait tout de suite dans la partie magazine autre chose à rajouter. Avant que Ludo nous fasse son second point, Christian, tu...
Pas pour le moment, mais la même crainte en ce qui concerne le débat qui se déroule actuellement.
Eh oui. Et nous n'avons pas d'oreillette, donc nous ne savons pas du tout ce qui se dit.
Bon, bah, elle était très détendue tout à l'heure.
Très tendue.
Oui, mais moi, je veux l'entendre détendue.
Bon, les amis, Ludo, ben, du coup, puisque...
Bon, ben, un deuxième point, voilà. plus léger, qui nous renvoie à une époque déjà plus lointaine. Fin du 19e, car on m'a offert un ouvrage récemment, enfin non pas récemment d'ailleurs, il faisait partie des ouvrages qui sont empilés, voilà, je remercie la petite famille, enfin petite, car enfin pas tant que ça, parce que par ailleurs en expansion qui me l'a offert, ils se reconnaîtront, quoi, et qui s'intitule « Que faire des crétins ?» Les perles du Grand Larousse, donc présenté par Pierre Henkel, qui est par ailleurs auteur du dictionnaire des onomatopées et du dictionnaire des jurons,
wow.
Et qui a été puisé dans l'édition originale du Larousse, rédigée, supervisée, parce qu'il y a eu quelques nègres évidemment, par Pierre Larousse, dont la publication débuta en 1863. Pascal.
C'est le terme nègre qui me gêne un peu.
Nègre au sens du massien.
Ah, tu veux dire que tu n'aimes pas Pascal Nègre ? Mais ça, bon, c'est pas le sujet, on parle pas de musique pour l'instant. Bon. Donc, je t'en prie.
Voilà.
Poursuis donc.
Et dont le premier tome paru en 1865. Et justement, de mots malheureux et de préjugés, cet ouvrage en est plein.
Chouette. Tu vas nous en citer quelques-uns.
Voilà, forcément. Puisque Pierre Henkel a été chercher 365 mots, 365 entrées qui
par jour.
Voilà, qui figurent dans l'ouvrage. Alors piocher pas tout à fait au hasard, hein, s'entend. Alors les incongruités cousinent avec des constats fort déconcertants. Hein. Citons simplement, je le cherche.
Voilà, parce que
entrée polygamie, donc extrait du tome 12 du Larousse, je cite « La volupté va naturellement avec la richesse, aussi ne trouve-t-on la polygamie en vigueur que dans les contrées où la richesse publique est considérable. »
Ouh. D'accord.
C'est assez joli.
No comment.
N'est-ce pas ? Plus léger, on trouve, ça ne peut que faire plaisir à nos amis des croissants, urine. Extrait du tome 15. Un homme fournit en moyenne tous les ans 450 kg d'urine et l'on a calculé qu'il s'en perd environ 12 milliards de kilogrammes tous les ans qui pourraient être employés avec grand profit.
Mais à quoi ?
Voilà. Il n'y a pas de développement.
Recyclons.
Oui, effectivement, d'accord, vu comme ça. Est-ce que c'est la même moyenne selon qu'on soit bavarois ou, je ne sais pas moi, érythréen ? Ah, les continents et leurs dérives.
Alors, évidemment.
Je t'en prie, Ludo.
Un ou deux exemples pour.
Et les Rwandais avec des machettes.
Alors, évidemment, les textes sont totalement imprégnés des préjugés de l'époque. Ça va de soi. On peut aussi trouver des assertions pseudo-scientifiques qui laissent encore rêveurs, telles que défloration. Séverin Pinault affirme qu'une fille est vierge lorsque son cou peut être embrassé par un fil qui s'étendrait de la pointe du nez à la réunion des sutures sagittales et lamboïdes. Un dénommé CH. Moritor assure avoir répété cette expérience plus de 1000 fois sans jamais avoir été trompé.
C'est intéressant, effectivement, on ne sait que faire des crétins, mais on vérifiera quand même.
Voilà.
Alors, bonne bouche, ces choses. Voilà.
Alors, je passerai évidemment certains passages qui sont totalement immondes vis-à-vis des juifs et des musulmans, qu'on peut l'imaginer.
Oui,
la pensée coloniale court, voilà, abride abattu. Enfin, ceci en rappelle.
Quelle image, quelle métaphore. Oula.
Ceci en rappelle au tenant d'une France éternelle et mythique qui jamais, jamais n'a dérogé à ses principes.
D'une France qui a notamment une identité, et chaque individu a une identité une bonne fois pour toutes.
Et oui, et pourtant, parce que si évidemment les populations étrangères sont amené à trinquer, le français, en fonction de sa région d'origine, n'est pas épargné. Ainsi, le basque, tome 2, page 317, querelleurs et vindicatifs, il n'est pas de fête chez eux où il se livre des combats meurtriers.
Arrête, sur les bretons.
Arrête, si toutefois des audénotes un peu trop rapides allons zapper sur le site de Radio Apple Pie,
nous reprécisons le contexte.
Voilà.
Hein, que faire les
nous attribuer ces propos à nous
paru chez Point,
bon, parce que...
ouvrage de Pierre Henkel, tout propos extrait des Larousse.
Merci originaire. De cette précision. Non seulement pour ne pas avoir de procès en diffamation, et bien que le basque ne soit pas querelleux et batailleur, enfin qu'on n'ait tout de même pas une bombe qui vienne faire exploser le bar de l'Apple Pass, ça serait fort dommage.
Je n'ose aborder l'Auvergne.
Mais vas-y, bah, donc oui.
Où là, effectivement, l'audinote primaire qui aurait fait quelques choix malheureux dans ses votes risquerait de s'exiler après avoir entendu ceci. Tome 1, page 1019. Les Auvergnats sont antipathiques au mélange des races et le vieux sang gaulois coule presque pur dans leurs veines.
Ah, c'est d'autant plus étonnant que j'allais dire... tout à fait pour blaguer, que justement dans la série de grosses conneries xénophobes et de vannes idiotes, les Auvergnats, c'est un peu nos juifs à nous. On les accuse toujours d'être près de leurs sous et d'avoir le porte-monnaie un peu ligoté. Comme quoi.
Ils ont quand même amené le café, le bois, le charbon un peu partout dans la France.
Mais vive les Bougnats.
Bien sûr.
Vive les Bougnats.
Et puis Georges Brassens nous a donné une illustration d'Auvergnat sympathique.
Tout à fait. Voilà. Mais ça n'était pas un crétin, lui.
Face à un tel déluge, on ne peut que conclure par cet extrait de l'introduction de Pierre Henkel. Nous sommes à plusieurs titres les héritiers de Larousse et de ses contemporains. Se pourrait-il que certaines vérités bien admises de nos jours, que l'on exprime publiquement comme si rien ne pouvait les contredire, et que des ouvrages didactiques reproduisent et transmettent avec une parfaite bonne foi, suscitent chez nos propres descendants, dans moins d'un siècle et demi, les mêmes réactions de révolte, de ricanement et d'effarement.
Hélas, tu parles d'or, ou du moins ce livre parle d'or.
Que faire des crétins, c'est paru chez Point.
Voilà, et nous n'avons pas la réponse, malheureusement.
Mais tu disais que c'était épuisé.
C'est épuisé.
Dans l'édition
précédente.
Là, sinon, c'est tout à fait disponible. Effectivement, c'est une réalité il n'y a pas très longtemps, au Point Seuil.
Mes chers amis, en l'absence de Letty, qui malheureusement...
On ne la rappelle pas au téléphone.
Non. Je pense que... au milieu des aléas des contraintes du travail social, elle n'a pas tellement envie de parler à notre micro ce soir par téléphone. Christian, Pascal, vous n'aviez rien à rajouter dans cette tripa gazamine?
En termes de
crétin. Ah non, pour m'énerver, non, je suis cool la soirée, je ne vais pas m'énerver.
Non, je vous rappelle quand même que
deux candidats qui ne sont pas...
On ne va pas débattre sur la critique.
Non, je vous rappelle quand même, chers audinotes, amis dans le bar et vous aussi autour de la table, que la partie magazine, c'est pas seulement des coups de gueule. Hein. On peut aussi parler de temps en temps de choses qu'on aime bien. Bon, en attendant du coup, et pour la conclure, comme d'hab, depuis le 1er janvier, nous allons écouter le Brassens de la quinzaine. Ce Brassens de la quinzaine, je me suis dit que comme dimanche, de toute façon, on enterrera soit... l'idée d'une certaine gauche, voilà, soit au pire carrément l'idée d'une certaine République française. Donc autant écouter les funérailles d'antan. Mais où sont-elles?
Jadis les parents des morts vous mettaient dans le bain. De bonne grâce, ils en faisaient profiter les copains. Il y a un mort à la maison si le cœur vous en dit. Venez pleurer avec nous sur le coup de midi. Mais les vivants aujourd'hui ne sont plus si généreux. Quand ils possèdent un mort, ils le gardent pour eux. C'est la raison pour laquelle depuis quelques années, des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, 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 corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabés, 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 macabés ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompons, pompons, pompes funèbres, on ne les reverra plus, et c'est bien attristant. Les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Maintenant les corbillards tombent au grand ouvert, emportent les trépassés jusqu'au diable Vauvert. Les malheureux n'ont même plus le plaisir enfantin de voir leurs héritiers marrons marcher dans le crottin. L'autre semaine, des salauds à 140 à l'heure vers un cimetière minable emportait un des leurs. Quand sur un arbre en bois dur ils se sont aplatis, on s'aperçut que le mort avait fait des petits. On s'aperçut que le mort avait fait des petits. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, 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 corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabés, 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 macabés ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompons, pompons, peu funèbres, on ne les reverra plus, et c'est bien attristant. Les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Plutôt que d'avoir des obsèques manquant de fioritures, j'aimerais mieux tout qu'on te fait passer de sépulture. J'aimerais mieux mourir dans l'eau, dans le feu, n'importe où, et même à la grande rigueur ne pas mourir du tout. Oh, que renaisse le temps des morts bouffis d'orgueil, l'époque des m'as-tu vu dans mon joli cercueil, où quitte à tout dépenser jusqu'au dernier écu, les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, 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 corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabés, 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 macabés ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompons, pompons, pompes funèbres, on ne les reverra plus, et c'est bien attristant. Les belles pompes funèbres de nos 20 ans.
On ne les reverra plus, les belles pompes funèbres de nos 20 ans. T'as remarqué d'ailleurs que même les urnes ont disparu, ont commencé à disparaître. Je ne parle pas des urnes funéraires, bien sûr. Et je vous rappelle, amis citoyens, que si vous voulez protester contre le vote électronique, il est tout à fait loisible dans vos bureaux de vote respectifs de vous adresser à nos amis qui, comme Béné, ici présente, sont là pour accueillir les électeurs et d'exiger que votre contestation du vote électronique soit sur un procès verbal. Parce que de temps en temps, c'est arrivé ici même au Havre, où on est des pionniers dans ce domaine, hein, déjà depuis le vote pour le traité constitutionnel européen, ou contre, certains ont voulu protester et on a fait remplir ça sur des papiers, des feuilles volantes qui probablement sont pré-chiffonnées pour terminer à la corbeille. Et non, non, on peut exiger un procès verbal en 3 exemplaires pour laisser une trace. Ah ben oui, mais quitte à faire les choses. D'autant plus que... Deux, me dit Béné, 2 exemplaires. Cela dit... Vous remarquerez que c'est quand même la première fois qu'on demande à ce qu'on nous dresse des procès-verbaux. Voilà, voilà. Sur ce, on va parler de musique avec toi, Doris, puisque tu es déjà venue pour notre plus grand plaisir au micro de Radio Apple Pie pour nous parler d'Eddie Bird, pour nous parler du Female Fest, bon, qui hélas probablement est un festival qui ne se reproduira plus, qui était pourtant excellent. Donc là, tu es dans une nouvelle aventure musicale avec Jean-Jean. Voilà. Tous les deux, vous jouiez dans les Dicky Bird. Ben, peut-être, je te laisse la parole pour nous expliquer comment ça s'est passé et quel est, voilà.
En fait, Dicky Bird, c'était un trio et nous n'avions plus en vivre, plus vraiment la motivation pour faire ce qu'on faisait déjà depuis 13 ans ensemble, parce qu'on n'était pas tous les trois avec la même motivation. Et puis, comme Jean-Jean et moi, on est mari et femme et qu'on est dans la musique ensemble depuis toujours, on a décidé de continuer tous les deux parce que c'était beaucoup plus simple, sans doute, pour l'organisation, on dira. Et puis qu'on avait envie, nous, on avait toujours envie. Voilà.
Bon, ça, c'est déjà bien d'apprendre, mais sans n'en douter pas que vous aviez toujours envie de faire de la musique et d'être dans l'aventure. Vous avez un grand duo, vous êtes un peu les Rita Mitsuko du rock'n'roll.
C'est-à-dire que je pense qu'on a profité d'une sorte de décomplexation. Je pense qu'il y a 10 ans, on ne se serait pas senti capable de faire un groupe sans une basse, par exemple, ou sans comme ça des éléments qui paraissent incontournables dans la musique. Et puis, on a profité sans doute du fait que ça se faisait et encouragé par ça. On s'est laissé aller pour finalement faire quelque chose de tout à fait possible, quoi, dans ce sans basse.
Et très original, comme on va le vérifier dans pas très longtemps. Mais justement, oui, effectivement, c'était important, évidemment, qu'on allait te poser cette question. Vous n'êtes pas le premier groupe, évidemment, dans le rock'n'roll à vous passer de cet instrument-là. Cela dit, c'est assez rare, quand même. Je crois qui a eu comme grand ancêtre là-dedans. Les Cramps ont fait des tentatives comme ça, me semble-t-il.
Je crois qu'il y a pas mal de groupes finalement qui n'ont pas. Ou alors, par exemple, là, on a joué samedi avec un groupe qui là n'a pas de guitare, puis ça les empêche pas d'avoir des mélodies, quoi. Enfin, et même d'utiliser leur basse comme des guitares, quoi. Je pense qu'on s'est un peu décomplexé avec un peu d'électro qui s'est mélangé avec. Je pense c'est tant mieux d'ailleurs. Puis c'est en plus une formule qui est moins difficile à gérer parce que moyen de monde, moyen de caractère, bon ça tombe bien.
Si on écoute.
Faut bien dire que sans basse c'est moins cher.
De toute façon avec sans basse t'as plus rien. Mais t'as tout du coup, pardon.
Ah oui.
Mais qu'est-ce que je voulais dire, on verra peut-être si on écoute un des 4 morceaux que vous avez enregistrés pour l'instant que ça pourrait même finir moins que 2. Mais bon ça. On n'est pas là tout de suite, tu vas voir. Donc, non, je vous propose qu'on écoute avant qu'on discute avec toi de comment ça se passe, à quel moment ça a commencé et jusqu'où ça va aller. Le premier morceau que tu as choisi, et si je ne m'abuse, c'est Chaud, oui, c'est ça.
We've shared so much time. We've shared so many heavens. We've crossed so many oceans. Where we learn to swim together. You can how would I know? Never try to why, 'cause I know. I cannot imagine my life without him and without you. Even that bit is too much. How do the others do? Can they how would they feel? I don't wanna why would I feel? It's too much work than I'd enough. I don't even want to wonder Let the others do what they do. And love exists for me and you. I can rise, rise, rise. I never need to rise, rise, rise. I don't rise, rise, rise. I don't wanna rise, rise, rise.
Sublime, je disais. J'ai un micro, oui. C'était chaud, donc... c'était chaud. Si le final, si je puis me permettre, est plus classique dans la veine d'Iggy Birdienne, est-ce qu'on peut dire que cette nouvelle aventure musicale, ça fait aussi que tu t'es permis des choses différentes au niveau du chant, évidemment?
On s'est permis tous les deux, parce qu'en fait, dans le trio qu'on avait, à la fois, il avait une couleur bien précise et bien revendiquée, peut-être dans laquelle on a fini pas par s'enfermer, parce que s'enfermer ça connaîtrait trop quelque chose de enfin ça serait péjoratif, mais on c'est vrai que le fait de pas avoir de basse qui appuie tout le temps, en plus une énorme basse quoi qui appuie vraiment tout le temps, ça permet de faire des genres de variantes qu'on n'aurait pas fait avant. Et puis vu qu'il y a plus qu'un instrument mélodique, la guitare permet aussi de l'arrêter et donc de faire autre chose à la voix, et du coup de découvrir des perspectives. Je pense que c'est ni plus ni moins une évolution on dirait naturelle quoi,
qui peut-être avait déjà commencé d'ailleurs sur le...
Je pense qu'on a toujours eu depuis depuis le premier disque qu'on a fait il y a 15 ans avec Dickie Bird, on a toujours eu quand même une veine, un penchant mélodique à un moment ou à un autre. Qui peut-être s'exprimer un peu plus là. Mais moi, j'ai pas envie trop de faire de comparaison, parce que Dickie Bird, moi, j'ai adoré ce groupe-là et je le revendique encore, parce que c'était vraiment quelque chose de passionnant et de passionné, quoi. Et là, c'est peut-être une forme de maturité, on dira, pour reprendre un terme basique. Puis sans doute moins de contraintes et moins de prise de tête, et puis plus faire la musique pour faire de la musique que pour faire un groupe. Et ça, c'est une autre perspective. Ça veut dire que ça décomplexe de plein de choses. C'est comme si d'un coup je me disais ok, je suis un peu grosse, mais je m'en fous, j'ai envie de me baigner quand même, quoi.
Voilà. Oui, alors ça serait quand même une grosse, parce que je disais sublime à la fin de show, serait et effectivement qu'il y en a des tas de gros et de grosses sublimes, mais je veux dire vraiment quelque chose de magnifique, parce que s'il y a bien aucun complexe à avoir, c'est sur cette façon de chanter, parce que on savait déjà, j'ai dit en présentant aussi l'émission, que c'est talents et copinages, et voilà, dans l'intitulé il y a talent, donc ça fait redondant de dire ça, mais forcément on va te faire plein de compliments, hein, désolé, c'est toujours difficile,
j'ai pas
mais
l'habitude.
On aimait déjà beaucoup ta voix, c'est pas la question, mais c'est vrai que c'est bien de l'entendre sur des petits délires comme ça, comme je trouve dans ce morceau là, c'est chose vraiment extraordinaire.
Bah, en l'occurrence, dans ce morceau là c'était vraiment c'est quelque chose de super improvisé. Quand on a fait l'enregistrement, il n'y avait qu'une voix, et pourquoi est-ce que je peux pas chanter deux fois?
Oui.
Et puis on n'a pas fait tellement de re-re. Les re-re, c'est en fait on enregistre une matrice, quoi, enfin une base de musique, et puis après on rajoute, on superpose un peu des couches de choses, quoi. Et là je me suis dit, tiens, je ferais peut-être bien un chœur ou deux, histoire de donner un peu de relief. Et puis un peu en déconnant, j'ai fait cette espèce de voix un peu ensorcelée derrière, comme ça, sans enregistrement. Et là Jean-Jean il m'a dit qu'elle était vraiment super et que ça cadrait vraiment bien, quoi. Donc on l'a fait pour le fun, en se disant aussi qu'on s'interdisait pas en enregistrant de faire des choses qu'on pourrait pas faire sur scène. À partir du moment où la base nous paraît bien, et ben on fait ce qu'on veut. Et puis surtout maintenant, voilà, on fait ce qu'on veut. Bah écoute, encore plus.
Ça c'est vraiment bien. Et effectivement, tu as anticipé sur une question forcément que j'allais te poser pour éclairer aussi tout le monde là-dessus. Évidemment que quand on a, tu disais, un instrument mélodique, la guitare, bon, une mélodie dans la voix, mais sinon, donc Jean-Jean à la batterie, tout ce qui est enregistré en studio, comment on arrive à rendre ça en concert? Bon, vous avez déjà vu, donc on sait que c'est tout à fait possible, mais est-ce que quand même vous n'êtes pas demandé s'il n'y aura pas un frein d'un point de vue musical et d'un point de vue visuel? Qu'est-ce que ça peut donner en live?
En fait, on de passer de 3 à 2, c'est quand même moins grave de passer de la bande à Basile à 2. Quoi.
Je sais pas la comparaison qui me serait venue tout de suite, mais pourquoi pas, en effet.
En même temps, c'est vrai que la basse qu'on avait dans le Dicky Bird, elle était ultra présente et de toute façon ultra mise en avant, donc il fallait qu'on table sur autre chose. Donc on a essayé de tabler un peu sur la composition. Ça veut pas dire qu'on tablait pas avant sur la composition, mais bon, on a eu un gros doute quand même. Nous, après, oui, on s'est dit, on prenait du plaisir à jouer, et ça, c'était super déjà. Mais on a eu la barrière de se dire, on va se montrer devant quelqu'un, puis on va voir, peut-être qu'on se fait des films, et peut-être que ça va être super pourri, quoi. Et notre baromètre, en fait, ça a été notre sonorisateur, qui était le sonorisateur de Dicky Bird aussi, qui a été le premier à nous voir. On y tenait, on a calé, on voulait enregistrer, on a enregistré rapidement, on l'a fait qu'avec lui, on n'a fait écouter à personne d'autre avant. Et on s'est dit, si lui, il fait la lip, c'est qu'on a du souci à se faire. Si lui nous
la
dit,
lip, c'est l'imagination au pouvoir, pourtant.
Si lui nous dit ça le fait, et ben c'est que ça le fera. Alors c'est que ça le fera. Après peut-être pas pour les uns ou pour les autres. Comme tout groupe, quoi. Mais en tous les cas, c'est que ce sera cohérent. Et puis la chance qu'on a eue, c'est qu'on l'a enregistré dans une salle de concert au BBC, qui a des super moyens quand même techniques. Il y a surtout une super, il y a des super écoutes, quoi. Et quand on a fait le mixage et qu'on a mis bien à bloc et qu'on s'est mis face à la scène comme si on était dans une salle et qu'on était tous les deux, on s'est dit putain, quand même ça swing, quoi. Et peu importe qu'on soit deux, enfin ça swing quand même. Et voilà. Après, visuellement, je trouve que c'est plutôt assez sympa. On a fait un concert samedi, on est très proche. Alors l'unité qu'on a de couple, eh ben il ressort aussi dans la musique. Il y a quand même une sorte de on est un peu c'est un peu yin et yang, c'est un peu mon alter ego et vice versa. Et donc cette espèce d'unité qu'on a de couple, elle revient sur scène. Je pense que ça donne une musique assez charnelle finalement, et que ça, bah là les gens ils rentrent dedans. D'ailleurs samedi on a été super surpris, mais les gens sont vraiment peut-être plus qu'avant, parce qu'il y a un côté peut-être un peu plus détendu, on dira, quelques guillemets.
Il y a quand même une grande énergie dedans quand même.
Oui, je pense. Bah, l'énergie du désespoir.
Il y a toujours dedans, quoi.
Je pense qu'il y a cette énergie-là, quoi. Nous, on dit tout. Notre truc, c'est de se dire, pour nous, les jeux sont faits, quoi. C'est pas maintenant qu'on va commencer à cotiser. Donc, pour la retraite, on sera jamais des gens comme les autres. Enfin, comme il faut, entre guillemets. Donc, autant qu'on continue de mettre tout ce qu'on a là-dedans. Nos joies, nos peines, et puis parce que voilà, les dés sont jetés, on sera que ça dans la vie, quoi. Et c'est bien.
On pourrait peut-être préciser que c'est une histoire toute récente, cet enregistrement, il date de
janvier. Bon, janvier, on a commencé à répéter au mois d'octobre. Ouais. En fait, avec Dicky Bird, on a conclu de la désunion ensemble autour d'un repas pour lequel on s'est vu pour ça. Et peut-être une semaine après, on répétait à deux, quoi. On a commencé à faire quelques bribes comme ça, puis ça s'est venu rapidement. On a répété novembre, décembre, puis on s'est dit qu'il faut enregistrer vite pour mettre des morceaux sur MySpace, parce que l'idée, c'est de partir aussi rapidement, quoi. Et puis de faire des choses.
Vous avez joué très vite aussi, finalement.
Ouais, on a joué au mois de février, on a fait le premier concert. On était un peu tendu quand même. Là, on a fait qu'un deuxième concert, mais bon, on a déjà des
points. Ça y est,
ça y est.
Tu jouais à Ségolène?
Oui, voilà, je pense beaucoup à Ségolène quand je joue en ce moment. Voilà.
Bon. On va écouter le morceau suivant que tu as choisi, et Inchallah, moi aussi. Mm-hmm. Et j'aimerais bien qu'on discute après aussi des textes, justement.
We'll be right back.
Inch'Allah. Bon.
Un morceau divin.
Un morceau de vin, et n'étant pas musulmane, j'ai renversé une bouteille de vin. Bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Ce sont, comment on dit dans
les aléas du métier.
Voilà. Bon, en tout cas, quand je ferme les yeux et que j'écoute ce morceau, alors tu vas me dire, Doris, si c'est du pur fantasme de ma part. Sensibilisée, tu le sais, comme je suis à la cause palestinienne, je t'entends dire, mais oui, je suis là. Comme je l'ai toujours été, j'imagine forcément, moi, une femme palestinienne qui crie sa révolte. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu étais, toi, quand tu as écrit ce morceau-là.
Bon, c'est un peu, je suis un peu moins altruiste. je parle d'une femme insuffisante rénale qui ne sait pas comment elle sera dans 10, ou dans 15 ou dans 20 ans et qui dit, si Dieu veut, alors c'est aussi le je suis complètement anti-religieuse, anti toutes les religions. Mais de dire Inch'Allah, c'est un peu un clin d'œil aussi à mes amis arabes, et que j'adore cette langue-là. Puis de toute façon, il a un côté un peu oriental, et moi j'adore mettre des touches orientales dans les morceaux de rock, je trouve que c'est super. Et voilà, mais c'est plus un morceau effectivement plus personnel qui dit si ma vie me pardonne, et avec tous les excès que j'ai fait, et s'il existait quelqu'un qui me prête une vie un peu plus longue. Que celle prévue, et ben je serai là, et de toute façon je serai là, quoi.
On avait déjà parlé avec toi, on va pas revenir là-dessus, sur ce qui peut arriver. Ça t'est arrivé de très dur, justement, de pouvoir passer pas très loin de la mort, et effectivement, athée ou non, bon, non, voilà,
je vais pas mourir, hein, je veux dire, mais bon, de temps en temps, je pense qu'on a des délires quand on commence à avoir un certain âge.
Oh oui, c'est vrai. Tous ceux qui sont sur notre site surtout... ont vu et verront des photos de Doris, sont tout à fait conscients qu'elle a un certain âge.
Non, mais aussi le fait d'être, je pense, mère de famille. Après, on se place plus dans la position de celui qui sera le prochain sur la liste et qui a. Mais bon, c'est plutôt à lui que je parle en lui disant, t'inquiète pas, moi je serai quand même, je serai toujours là.
Mmh. En tout cas, c'est un très beau morceau avec effectivement cette guitare hypnotique. Je suis désolée, c'est un peu un cliché d'employer ce mot-là, mais forcément qui revient comme ça.
C'est un morceau qui est très. Il est très bigarré avec des choses. Là, il y a des influences de métal qu'on écoute plein, et puis d'autres choses. Et puis surtout, il y a un super délire qu'on s'est fait aussi. Ça, c'est les avantages du studio. C'est d'avoir fait une polyrythmie avec deux batteries complètement différentes qui ont été superposées. Ouais. Et ça, c'est super parce que c'est un rêve, en fait, de pouvoir. Jean-Jean, ça faisait très longtemps qu'il avait envie de faire ça, qu'il l'entendait. Moi, au début, je trouvais ça un peu tarabiscoté. Je me disais, je le vois pas bien, et quand en fait les deux batteries, quand il a joué la deuxième batterie, je trouvais ça très alambiqué, et quand elles se sont superposées, il y a eu un espèce de rythme comme ça, une vraie polyrythmie qui était vraiment super à écouter. Et voilà, c'est un bon délire.
Donc il semble bien, je crois que autour de la table, Christian et Pascal, vous découvriez ce morceau, je crois. Enfin, je ne sais pas.
Ah oui, complètement.
Je remercie Pierre en tout cas, parce que Pierre, notre webmaster de Radio Apple Pie. Puisque même si je commençais à savoir il y a quelques mois donc que vous aviez cette nouvelle aventure et ces nouveaux enregistrements, il a eu la très très bonne idée de le mettre, bon, pour l'instant dans les pages cachées de Radio Apple Pie, mais ce qui permettait quand même à toute l'équipe éventuellement d'aller jeter une oreille là-dessus. Moi, je prends une claque, mais effectivement tout à fait monstrueuse, et notamment à l'écoute de ces deux morceaux qui viennent de passer. Donc voilà. Bon, on est très contents. Ça ne se sent pas finalement, mais je m'excuse auprès de.
Bah, les auditeurs ne le sentent pas. Mais...
De TV, qui est photographe et webmaster de Ludo et Béné, qui éponge mes conneries pendant ce temps-là. Je suis désolée, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'accueil quand vous avez envoyé cette démo, parce que pour l'instant c'est une.
On l'a pas vraiment envoyée.
On l'a pas encore vraiment.
Non. En fait, on a des plans bien précis dans la tête. Bon, déjà l'idée c'était de se mettre sur ce fameux MySpace qui ouvre quand même une multitude de portes. Pour l'instant, les échos sont plutôt très favorables, mais je veux dire qu'on est. Bon, c'est sûr que ça compte que les gens, parce qu'évidemment.
Ah oui.
Mais On est à un stade où vraiment, comme on se fait plaisir, c'est voilà, on fait ça d'abord. Après, advienne que pourra, mais ça a peut-être moins d'importance qu'avant, quoi. Voilà, c'est vraiment le but, c'est de se faire plaisir. On a encore envie d'aventure à l'étranger. On partira normalement au Danemark, en Allemagne et en Pologne à la rentrée. On veut aussi aller enregistrer, retourner à Chicago, parce qu'on veut refaire ça dans notre vie, parce qu'on l'a fait.
Enfin, si les génial. Frontières sont encore ouvertes.
Ouais, si les frontières, bah en Pologne on devrait normalement.
tu risques d'être obligé de signer une décharge.
Je le ferai.
Mais pour la plomberie, ça concerne pas spécialement. Le rock'n'roll en général, c'est instrument de musique et mécanique, mais plomberie, je savais pas. Non, je reprends sur un truc, mais bon, vraiment, c'est parce que ça fait longtemps qu'on en a parlé par échange d'email et pas encore dans les micros de Radio Apple Pay, et c'est pas du tout pour t'apporter une contradiction, mais il y a forcément un débat sur MySpace que je me sens obligée de signaler, qui est le fait que ce truc-là est tenu par Rupert Murdoch, et bon, évidemment, le gros enfoiré qu'on sait, de ultra-libéral, néo-conservateur, Fox News, etc. Et il se passe que, évidemment, chaque fois que quelqu'un crée son MySpace gratuit et que nous tous on y va, forcément, et on y va tous de par le fait, ça apporte de l'eau à son moulin, ou plutôt des dollars dans sa bourse. Voilà, ce qui fait débat. Bon, je disais
alors
ça,
après, bon, probablement, nous on connaît un groupe qui s'appelle l'Enfance Rouge, qui a choisi de boycotter et qui par exemple a décidé d'interrompre son MySpace, et il y a un espèce de mouvement comme ça, quoi. Bon, après, on peut rentrer dans le débat qu'on ne boit pas de coca et qu'on n'ira jamais chez McDo. Bon, moi, je pense qu'on l'utilise parce que c'est un support qui est là, qui nous permet quand même de véhiculer des choses. On n'est pas complètement idiots, on sait ce qui se passe. Et le jour où on nous retirera MySpace, ou s'il n'y avait plus MySpace pour une raison ou pour une autre, et ben voilà, on ferait autrement, quoi. Bon, voilà.
On n'a pas tous, pour l'instant, en tout cas, la possibilité, le loisir de créer quelque chose d'alternatif.
À ce moment-là, tous les gens qui ont un PC, c'est Microsoft, enfin, on peut... Les choses, c'est de ne pas ignorer... Le truc, c'est de ne pas ignorer que ça existe et le pourquoi c'est, de ne pas fermer les yeux. Après, bon, c'est vrai qu'on peut être ultra radical. Moi, je suis pourtant dite assez radicale.
À partir du moment où tu as un PC et tu vas sur Internet, tu mets plus d'argent dans les poches de Bill Gates que dans...
Oui, quand on va sur Google faire une recherche...
Voilà, pas forcément. C'est, tout ça est très compliqué. C'est pour ça que je disais, bon, sur MySpace, donc c'est homologué d'une façon très précise. C'est un peu comme justement quand on... tu disais boycott Coca-Cola, ou qu'on n'achète pas des jeans de telle marque ou des baskets de telle marque. Ce qui n'empêche pas qu'on ne peut pas vérifier chaque chose de nos consommations. On en parlait lors de l'émission sur la décroissance, faute de se couper complètement du monde. Donc voilà, je signalais juste ça.
Comme pour tous les groupes, tous les gens qui font de la musique ou autre chose, parce qu'il y a des artistes, des sculpteurs, des peintres qui sont sur MySpace et tout ça. Même des endroits.
Non, mais
qui font
c'est déjà récupéré par des.
Quand moi je vais sur la page
majeurs,
de Grand Final, par exemple, je ne pense pas un instant acheter un œil sur la pub qui est en bandeau en haut. Quoi. Je vais écouter leur musique, je vais regarder leurs amis, je vais regarder leurs commentaires, tout ça. Bon, on n'y pense pas un instant.
Parce que dans le fond, MySpace, c'est quand même une super bonne idée, quoi.
Non, mais bien
sûr. C'est ce qui a permis de fédérer des gens au sein d'un espace Internet avec une méthode suffisamment calibrée pour que chacun s'y repère. Et donc, c'est dans l'idée, elle est excellente.
Non, mais tout à fait. Mais cela dit, les capitalistes ont très souvent des bonnes idées. Hein, vous le savez, sinon, on n'en serait pas là. Mais je précisais juste pour nos auditeurs que donc Arnaud, qui a pris la parole, qui est aussi connu des plus fidèles aux dénôtres, nous parlera tout à l'heure de Tribal Zone, qui a évidemment également un MySpace, tout comme Double Shot, tout comme d'ailleurs voilà, nombre de groupes, comme tu le disais, et d'artistes.
Cannibal Peluche, qui n'est pas un groupe par ailleurs, mais qui jusqu'à présent, et en attendant de migrer...
Et Radio Apple Pie, il y a un MySpace.
Non. Et à mon avis, ça poserait un énorme débat au sein de l'équipe. Mais bon, bref, on n'en est pas là. D'accord. On a la chance d'avoir un site... très bien fait par nos amis.
Ça n'empêche pas, c'est un truc complètement différent, ça n'empêche pas. D'avoir un site, c'est quelque chose, d'avoir un MySpace.
Bah, je suppose que pour avoir un site, il faut souscrire un nom de domaine.
Ouais, ouais,
et c'est des gros capitalistes qui ont aussi un peu des monopoles dans ces choses-là. Quoi. Donc, Après, je pense que le tout, c'est on peut usiter certaines choses. Enfin, je veux dire, quand vous fumez des Chesterfield ou des Marlboro, quoi que ce soit, quand on boit de la bière, enfin tout ça, on contribue quand même à une société de consommation qui est faite dans une certaine lignée. Le tout, à mon avis, c'est de ne pas l'ignorer et de l'utiliser à bon escient, en sachant qu'on ait eu sur un fond, mais qu'on essaye de ne pas l'être sur la forme.
Et puis ça reste un groupe ou un artiste, ça reste un outil promotionnel gratuit.
Voilà. Tout à fait. Non, mais c'est bien pour ça, chers amis, que si vous voulez bien, on va briser là, parce que je ne comptais certes pas lancer une polémique, mais juste signaler. Voilà.
Bon, ceci dit, le MySpace de Grand Final, c'est myspace.com/ Grand Final.
Voilà.
Bien sûr. Et d'ailleurs, ça nous a permis de faire une sacrée campagne anti-Sarkozy, parce qu'on a profité du fait qu'on avait ces supports-là pour. Envoyer des petites icônes un peu, et qu'il y a eu un espèce de ralliement spontané. De
oui, c'est assez magnifique. Je suis retournée cet après-midi.
Ouais, pour utiliser l'icône.
Quand on voit les amis.
Pas mon président. Voilà. Et ça fédère. Bon, allez. Hop. Ouais.
Pour ceux qui ne savent pas, quand même, comment ça peut fonctionner au sens de. On a des amis, donc voilà. Les gens
on sollicite des gens pour être nos amis. Alors, c'est pareil, comme il y a plein d'opportunistes là-dedans. Moi, je suis hyper vigilante sur mes amis. Déjà, je regarde ce qu'ils sont, ce qu'ils écoutent. J'ai beaucoup de critères de sélection et je refuse des tas de gens, quoi. Par exemple, il y a des gens, ils ont 28 640 amis. Je me dis, quelqu'un qui a autant d'amis ne peut pas être honnête.
Ouais.
Donc déjà, celui qui a 28 640 amis, il est viré. Parce qu'en fait, il y a aussi l'idée, c'est aussi d'aller mettre ses annonces de concerts, etc. Voilà. Faire sa pub, quoi.
Je précise juste pour ceux qui ne seraient pas forcément au courant, que ce soit autour de la table, dans le bar ou éventuellement parmi nos auditeurs, parce que c'est tout à fait possible, que donc à partir du moment où tu as des amis, ces amis figurent sur la page du groupe ou des artistes ou des personnes en question.
En fait, on a un listing d'amis et on choisit son top 8, voilà. 16 ou 20 ou 24 amis. On met les amis qu'on préfère en devanture, quoi. Alors qu'on préfère pour telle ou telle raison, parce qu'ils ont une actualité ou parce qu'on les aime bien, parce que leur site il est sympa et tout ça, quoi. On choisit. Donc on fait de la promo, donc la promo elle est multiple. Et ce qui est quand même impressionnant avec MySpace, c'est que c'est sur la terre entière. Moi je suis copine avec des Tchèques, des Australiens, des Néo-Zélandais, et ça il y a un côté quand même super. Et puis l'autre côté super, c'est qu'il y a un petit lecteur, de musique où on met 4 morceaux. Moi ça m'a fait découvrir des groupes fabuleux que j'aurais jamais entendu nulle part, parce qu'ils seront jamais distribués nulle part. Et comme ça, en cliquant simplement sur une petite vignette, on a ces morceaux et puis on se dit, oh bah tiens, ça c'est super. Alors du coup, on voit ses amis, on lui demande d'être ami. Bon, le principe est sympa quand même. Hein.
Les avantages de la toile et de l'utiliser intelligemment.
Voilà.
Je te propose qu'on revienne quand même à votre musique, bah, parce que c'est quand même surtout pour ça qu'on t'a invité ce soir. Avec l'idée que donc vous avez enregistré 4 morceaux, est-ce que c'était parce que très vite ceux-là que vous avez composés et puis voilà vous les avez enregistrés à l'arrache, vous avez déjà fait un choix
Non, on avait ces 4-là qui étaient bien prêts, quoi. L'idée, nous, c'était vraiment MySpace. C'était de se dire, il nous faut 4 morceaux pour qu'on puisse propager la nouvelle. Parce qu'on s'est dit, plus vite on va faire savoir qu'on existe, plus vite on va commencer à acheter des grappins à droite à gauche pour dire, voilà, nous, notre idée, c'est d'aller faire des concerts, comme tous les groupes. On sait qu'on est dans un contexte hyper, hyper, hyper défavorable.
De plus en plus difficile.
De plus en plus défavorable, tant et si bien qu'on a revu énormément à la baisse les conditions, quoi.
À la baisse,
Mais voilà, quand même, ce qui fait vivre un groupe, c'est de jouer, c'est de progresser avec les autres, quoi. Donc voilà, on s'est dit, c'est un moyen économique et facile de faire écouter notre musique au plus grand nombre et puis d'aller jouer rapidement, quoi.
Donc du coup, sur la base de cet enregistrement, vous continuez à enregistrer, vous continuez à répéter, je suppose, et à créer d'autres morceaux.
On a fait à peu près le double de morceaux, suffisamment pour constituer un set. Là, on est en train de constituer d'autres morceaux, parce que là, on est bien pour faire des premières parties, mais on est un peu short pour faire des concerts entiers, enfin, en étant...
Écoute, franchement... Créé en janvier, je me rappelle que nous sommes en octobre-novembre.
Oui, donc on a une dizaine de morceaux, mais c'est un peu short pour tenir tout seul. Donc voilà, on compose. Et puis, comme dans Dicky Bar, par contre, on a toujours travaillé de cette manière-là, c'est de se fixer des objectifs. Et là, on va les réenregistrer, parce qu'une fois qu'on enregistre un morceau, eh ben, on le digère. Donc c'est une manière qui soit... On en connaît les moindres recoins, Et donc ils sont beaucoup plus faciles à jouer, quoi. Parce qu'on décortique tout, on simplifie, on assainit, et voilà, c'est comme si on l'imprimait, quoi.
Dans les purs.
Voilà.
Donc ce couple que vous êtes et ce duo musical va prendre la route. Alors donc camion avec enfant, parce que on avait parlé avec toi au moment du film Hellfest. Est-ce que ça reste encore possible de se dire on va partir tourner?
Mais nous, tant que ça va être possible, oui, oui, ça va devenir, ça commence à devenir délicat quand il va être à l'école au CEP, quoi. Mm. Où là, on va pas pouvoir dire qu'on s'en va comme ça qu'un jour ou une semaine. Ou... Donc, pour l'instant, tout l'année prochaine, on a prévu aussi de le prendre avec nous encore. Donc, on prend quelqu'un avec nous, quoi, pour le faire. Donc, ce sera pas un camion parce qu'on n'a pas les moyens, mais petite forme dit aussi.
Et voilà,
moins grand moyen. Donc, on a une voiture qu'on va atteler avec une remorque, tout simplement. Et voilà.
Voilà. Et puis, grand final, en roulotte sur la route.
On peut aussi. C'est en ça aussi qu'on a évolué, c'est qu'avant, on n'imaginait jamais de ne pas jouer sur notre matériel, quoi. Là, maintenant, si on prend une tête d'ampli, si quelqu'un peut nous prêter un corps de guitare.
Du moment que c'est pas un grand corps malade.
Un corps de guitare.
C'est bon, il y a plein
voilà,
de gens.
À partir du moment où Jean-Jean il a ses cymbales, sa caisse claire, sa pédale de grossesse, son charlet, bon ben voilà, si on peut nous prêter les tomes, ben voilà, on s'adaptera.
Cymbales, c'est pas cher.
Le contexte, il est complètement différent. Le contexte est complètement différent et on a créé ce groupe-là avec le contexte. Donc, en ayant mis une croix sur plein de choses, et finalement, c'est pas plus mal.
Donc, c'est Roots. On va te remercier là-dessus, Doris, sachant que. J'espère que tu vas rester avec nous pendant le reste de l'émission. Et on va écouter le troisième morceau que tu as envie d'écouter ce soir, qui s'appelle Me and Myself, que j'aime beaucoup. I wish I was alone. No soul around me. I wouldn't even talk on the phone. People would vanish suddenly. But some days, some days, I mean it, really mean it. Yeah, this shit. Shop. How many free walks on my own? No electricity, no battery, computers asleep. Me and myself, me and my head. Alone, out of time. But someday, someday, I mean it, really mean it. Empty streets, empty shops. Myself, c'est à ce morceau que je faisais allusion quand tout à l'heure Doris parlait de passer de
je m'aime
5 à 3, 2 et pourquoi pas à 1, me and myself, toi-même. Oh. Voilà. Le narcissisme encore de beaux jours devant lui.
Exactement.
Je suis sûr qu'elle arrivera encore à dire myself.
Avant ouais. De.
J'arrive à m'engueuler avec myself.
avant de passer la parole à Christian, enfin, tout du moins de lui demander de nous expliquer comment se présente la quatrième version de La Ruée vers l'heure, je voulais quand même te demander, oui, j'ai oublié tout à l'heure, pourquoi ce nom de grand final ?
Pour rien.
Chouette. Eh bien, merci.
En fait, on voulait s'appeler Thiolence.
Ah oui ? Et en référence à notre nom de famille, noms, quoi, voilà. Oui.
Mais avec une orthographe un peu, une calligraphie un peu spéciale. Et puis Jean-Jean, il aimait bien ce contraste de grand final, puis cette notion un peu aussi d'extrémisme, on est avec le côté un peu final, quoi.
Ouais, bah oui. Un peu final, peut-être parce qu'il est très fan de football aussi, ton chéri.
Putain, j'ai pas pensé à ça. Bon, alors en fait, on a fait des recherches quand même pour savoir si ça existait pas, ouais. Et puis en fait, ça existait pas. Et c'est pour la sonorité, ouais. Et puis parce que il y a un côté un peu mégalo avec grand, et puis ouais. Final avec le côté un peu extrémiste.
No, on jette. Ouais. C'est No Future, mais c'est grand
dans le mur,
même temps,
quoi, voilà.
Ouais, c'est pas mal.
Ouais, c'est un peu exacerbé, comme nous, quoi.
C'est bien. Grand final, tu restes avec nous, pas de problème. Bien sûr. Christian, mon cher Christian, je t'ai présenté tout à l'heure comme désormais un des chroniqueurs de Radio Apple Pie, ce que tu es, indéniablement. On le rappelle souvent, cela dit, mais bon, qu'on t'a reçu quand même avant que tu rejoignes notre équipe définitivement, enfin en tout cas, j'espère, pour longtemps. Quand tu as reçu en tant qu'écrivain, voilà, on ne va pas reciter tous les livres, et aussi pour cette belle initiative autour du quartier de l'Eure, ou à quartier populaire dans lequel tu as vécu quand tu étais enfant, jeune, et dans lequel tu as parlé évidemment dans un de tes livres. Donc c'est la quatrième édition, que se passe-t-il cette année? Est-ce que ça s'affine au fur et à mesure? Bon, c'est de plus en plus connu évidemment. Quelles sont les nouveautés et les suites logiques de cette histoire?
Alors je vais vraiment répondre à ta réponse, mais je voulais dire que je suis complètement troublé. Peut-être qu'il y a un débat en ce moment, et la qualité des réponses de ce que Doris vient de raconter, je suis presque à retrouver des éléments. Alors peut-être que dans le débat, j'espère que l'autre il va se planter, mais moi je retrouve le mot « se faire plaisir ». Pas de contraintes, mais, et nous on n'a pas de fric non plus. Et cette aventure qui est née, tout simplement, il y a un livre qui racontait mon enfance. J'ai pas pu quitter ce livre, j'ai sauté carrément 50 années plus tard pour me poser la question, pour crier sur ce qui allait s'abattre sur le quartier de l'Eure. Parce que je voyais gros comme une maison, si je peux dire, que l'immobilier allait s'abattre dessus, et je mettais dans ce terme la ruée vers l'Eure. Et donc ce bouquin a été lu par des tas de copains que j'ai retrouvés un demi-siècle plus tard. C'est vraiment étrange comme situation. Ça veut dire que je suis vieux. Et donc ce qui pouvait être simplement une rencontre tout à fait amicale la première année, il s'est avéré qu'il y a eu un militantisme autour de cette histoire, parce que tout le monde ressentait que dans la friche portuaire et industrielle, et tout d'un coup, il y avait une espèce de centrifugeuse qui allait foutre les pauvres, on ne sait pas où, pour y mettre des gens avec des résidences sans doute fermées, avec des miradeurs et des caméras. Donc c'est le côté qui nous a effrayés. Et curieusement, c'est une espèce de cooptation qui s'est faite autour de nous. Donc quand Juliette, tu me demandes ce que ça devient, mais je suis complètement épaté, parce que tous les ans, notre équipe s'étoffe. Et alors je vais refaire une référence au débat de ce soir. Je suis ravi parce que les femmes arrivent autour de notre table pour créer avec nous. Parce que c'était en fait une histoire d'hommes, puisque quand j'écrivais ce bouquin, c'est mes copains de la cour de récré. À l'époque, la mixité n'existait pas, hélas. On était comme des couillons dans nos cours de récréation, et les filles étaient dans l'école d'à côté. Et les femmes se sont exprimées pour dire « mais on voudrait être dans cette aventure ». Et il se trouve que ce sont des femmes qui écrivent. Et bon, alors je vais venir tout de suite à cette quatrième édition.
Bah oui, bien sûr.
On a toujours eu envie de mettre des thèmes après ce qui n'était simplement une rencontre. On s'est dit, on essaye, si on comprend bien, on essaye de gommer les gens qui y étaient avant. Ça commence comme ça, la mémoire ouvrière de ce quartier. On se dit, elle va échapper si on n'y fait pas attention. Déjà, les murs, ils les font tomber. Et puis là, cette année, on s'est dit, il y a des mots qui risquent de disparaître. Parce que le mot quartier de l'Eure, on le dénonçait déjà l'année dernière, on nous le baptisait de quartier Saint-Nicolas. Et donc, quelque part, nous, c'est quelque chose qui nous choquait, parce que le quartier, après, c'est le quai, qui n'est plus le quai de Saône, que tout le monde connaît. Le quai de Saône, c'est là où était Jules Durand. Ça va devenir quai des Brumes, si on laisse faire. Et donc, le thème de cette année, c'était les mots. Et voilà que, dans cette aventure de cette année, on va délivrer les mots, on va les offrir. Il y a tout un glossaire qui est fait par... Alors, je dirais, on a une sacrée chance aussi. Quand je dis on n'a pas d'argent, c'est que tout le côté de l'aventure humaine de cette histoire-là sont des ouvriers dockers qui nous donnent le foyer des dockers comme écrin.
Le BCMO
le, c'est pas le BCMO, c'est
le foyer des dockers.
Qui était cette énorme cantine qui accueillait des milliers de dockers pour les repas d'autrefois. Et donc, nous, la météo, on s'en fout. Quelque part, on a essayé d'aller dans les rues, hein, d'aller à la rencontre des gens. Ça a souvent été difficile d'avoir des barrières, d'avoir des arrêtés, parce que, quelque part, on était un peu des apprentis sorciers qui faisions une histoire... un peu comme par nous seuls, quoi. Et maintenant, on est pris vachement. Enfin, pardon, je dis le mot vachement parce qu'il me vient par le cœur. On est.
Il n'y a pas de honte à dire vachement.
Vachement.
On
est pris au sérieux et quelque part, maintenant, c'est devenu une institution. Et on nous demande quand est-ce qu'elle a lieu. Et ça vient de tous les lieux médiatiques. Et...
Tant mieux. Je reviens juste sur deux trucs. C'est-à-dire qu'à la fois, quand tu as parlé des foyers des dockers, Doris des BCMO, quand même rappeler que la première édition pour laquelle RAP t'avait accueilli aussi, effectivement, vous aviez eu cette idée de ce rassemblement pour faire revenir la cloche qui sonnait l'appel du travail, ce qui n'était pas forcément quelque chose de joyeux, mettons-nous bien d'accord. Mais bon, voilà, le bureau de la manœuvre avec tous les dockers à vélo. À l'époque, vous aviez fait aussi une grande manifestation avec les cycles Sabine autour de ça, quoi. Donc, il y avait déjà cet aspect à la fois la rue, retrouver une certaine ambiance de l'époque, sans sombrer dans la nostalgie, parce que
non, on est complètement ouvert. Et alors, justement, les gens qui sont autour de la table, je veux dire, affichent un certain âge, mais ils ont une ouverture d'esprit et ils ont envie de transmettre. Et alors, et chacun a des compétences très différentes. Et il y a une historienne, une femme qui s'appelle Françoise Deschamps. Nous, quand on se dit merde, on est en train de nous piquer nos mots ou on va disparaître, et elle nous sort des pépites. C'est la rue Everleur. La pépite de l'année dernière, c'est de dire attention, le port et la ville de l'heure existaient bien avant le Havre de 1517, et c'était un port qui avait une grosse activité. Il y avait des marais salants. On sait que les greniers à sel, c'était à l'époque.
Est-ce que ça inclut les tréfileries,
Doris?
Alors, en fait,
au Moyen-Âge,
c'est évident. Je dirais que dans l'histoire du Moyen-Âge, il y a la grande et la petite Loire, ça va même jusqu'aux neiges. Mais c'est vrai que nous, enfants, quand on parlait simplement de tout ce qui tournait autour de notre église, mais on sait qu'il y a une ramification qui se fait par ce grand boulevard qui file vers toutes les usines. Le boulevard Jules Durand, le bien nommé,
Il y a un trésor... c'est une digression, mais je
trouve
passionnant. Il y a un trésor d'histoire du côté des Tréfileries avec cette espèce d'hôtel des ingénieurs qu'un couple essaye de...
J'ai rencontré ce couple.
Il y a une histoire. D'abord, on rentre là-dedans, on a la chair de poule.
C'est une chapelle à la base.
Il y a comme des choses mystiques qui se passent un peu là-bas. Et franchement, c'est sincèrement troublant. Et quand ces gens-là vous parlent de l'histoire avec ce fameux gars qui a inventé un fil, il y a un espèce d'Alsacien qui habitait dans le quartier de Tréfileries qui a je sais plus son nom parce que je suis pas suffisamment calée, mais qui a inventé un procédé
de tréfilage.
Et on va dire que c'est... Moi, je ne le savais pas. Ce qui me tue, c'est ces gens-là qui font appel aux autorités de la ville. Mais ça les intéresse. Ouais. C'est pas, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas
J'ai rencontré ce couple. J'ai rencontré ce couple parce qu'ils ont entendu parler de la rue Verleur. Donc, forcément, ils sont venus à notre rencontre.
Je les avais rencontrés au temps où je travaillais encore pour la presse et où il était possible de faire des reportages intéressants.
Voilà, et
Tous les deux, Doris et Christian, oui. Vous faisiez partie, il y a, rappelez-vous, pas si longtemps que ça, de la presse avraise.
La vie étudiante n'existe plus dans la presse avraise.
Et la vie locale, et voilà, pas beaucoup non
pas
plus.
Beaucoup non
la
plus.
Vie culturelle vient d'en perdre avec notre ami Philippe Lenoir, qu'on salue quand même. Ouais, ouais, bah, voilà.
Ouais. Je voulais dire que forcément... on a des liens avec les gens qui se battent pour les mêmes motivations que nous. Et quand j'ai rencontré ce couple, ils me parlaient de... C'était une époque où il y avait un patronat qui voulait élever la culture, la condition.
Oh là là, non, mais je veux le dire, patronat paternaliste. Excusez-moi. Non, pas que ça. Je sais que les ravages du marché sont grands.
Je veux dire que c'était mais, un village polonais.
En l'occurrence, oui. Dans
c'était
le
Crisola, ça n'a pas existé pour rien non plus. Hein.
C'était un village polonais. Il y avait cirque, théâtre, conservatoire, école, gymnase, stade.
L'école de cirque est toujours là, d'ailleurs.
Voilà. Tout ça, ça a été fait dans cet environnement-là. Et bon, je vais revenir...
Oui, il faut bien laisser du grain à moudre aux gens qu'on exploite.
Mais je veux dire que c'est peut-être une période qui a disparu, hélas, puisque maintenant, on n'a plus le même type de rapport avec...
avec le patronat. Voilà. Jean-Pierre Levarec, nous aimons beaucoup ici aussi. Un jour qu'il était à la Galerne pour présenter son livre « Putain d'usine », Françoise, qui dirige la Galerne, lui a posé la question, mais est-ce que tous ces problèmes qu'il y a désormais entre les salariés et le patronat ne viendraient pas du fait que, justement, il n'y a plus de patron et que ce sont des actionnaires très loin? Et Jean-Pierre a eu, bon, je lui laisse cette phrase, mais enfin, oui, c'est vrai, c'est dommage qu'il n'y ait plus de patron, parce qu'au moins, on pouvait les pendre. Sur ce, je vous propose, et ça sera raccord, parce qu'on va parler de Little Bob dans pas longtemps, d'écouter ce premier morceau que nous avons choisi de Live in the Dockland, qui s'appelle lui-même Live in Dockland.
I'm living in the Dockland. I gotta tell you about the rumble.
Péchu Little Bob qui nous avait gratifié quand même d'un super concert avec plein d'invités pour ses 30 ans. N'est-ce pas ?
Qui m'avait coûté ma guitare, d'ailleurs.
Oui, bah, t'avais qu'à pas t'énerver non plus.
Hein. Je me suis pas énervée. J'ai glissé.
Doris, effectivement, nous a fait un super show aussi.
Concert, nous allons reparler d'ici quelques minutes. Voilà. Amis audinotes, restez à l'écoute.
Voilà. Oui, le rock'n'roll, c'est dangereux, et effectivement, la preuve en est. Donc, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais.
Non, encore.
Effectivement, si on parlait de, enfin, si on passait Little Bob à ce moment-là, c'est parce que lui, il vit toujours dans ce quartier qui est cher à son cœur, d'où le titre de ce morceau. Et voilà, d'où l'intérêt de le passer quand on parle de la ruée vers l'heure. Mm-hmm. Christian, avant de passer la parole à Pascal, qui va parler de toi en plus. Quand on dit talents et copinage, hein, on l'a dit, il y a talent, mais il y a aussi copinage.
C'est gentil.
Donc,
c'est pas du copinage, c'est en fait en liaison quand même directement quelque part avec.
Non, mais bien sûr. Juste brièvement, je ne sais pas si l'émission sera en ligne avant que la manifestation commence. J'en doute vu qu'elle commence demain, mais...
Non, mais c'est intéressant que ça soit imprimé.
Nous expliquer, tu nous as dit que donc des femmes, notamment historiennes...
Allez, je vais les citer, les trois femmes, parce qu'il y a Françoise Deschamps qui nous sort tous les ans des recherches extraordinaires et qui nous permettent de mettre vraiment des arguments forts et en visibilité avec le public qui vient. Il y a Yvette Ricouard qui nous fait une histoire des années noires du Havre entre 1933 et 1954, et c'est des choses illustrées, écrites et qui seront sans doute publiées très bientôt. Il y a un abécédaire. Je crois que les gens, s'ils veulent vraiment découvrir le langage, les mots, c'est le RCPH, puisque l'association des Dockers qui nous héberge fait un travail fantastique en photo et en informatique. Et puis il y a toute une palette d'artistes peintres, des photographes, et toutes les fois notre envie, c'est, on se fait plaisir mais on ne fait pas de la routine, donc ça nous invite à créer constamment. On fait toujours un prologue, c'est pourquoi tu parlais de demain, voilà. Ce jeudi. On a toujours envie, c'est de rencontrer toute cette bande de copains qui avons fréquenté cette cour de récréation. Alors, une première rencontre, on l'avait fait à l'école Amiral Courbet. L'année dernière, on a réveillé le vieux cinéma idéal. Donc, on a fait une séance documentaire, entr'acte, attraction, grand film.
Ludo y était. Ludo...
Oui. Oui, alors il faudrait préciser que le documentaire en question n'était pas strictement un documentaire. Nos audinotes pourront se reporter à l'interview de François Bélanger, donc, qui en est le réalisateur, qui est à mi-chemin entre le documentaire, le témoignage et la création d'art plastique, hein, qui est une œuvre assez singulière.
Et ce qui nous permet de dire que dans cette aventure, il y a des jeunes gens, des étudiants qui nous rejoignent. Et donc, c'est intergénérationnel, quoi. Et là, cette année, on fait la guinguette.
Donc, oui.
Parce que on voulait montrer aussi qu'il y avait un esprit de collation soupante, de gens qui s'amusaient. On parle souvent de la solidarité des gens de ce quartier, qui s'entraidaient, qui s'entraident toujours, je le pense. Et demain, c'est le groupe Yaka qui vient animer cette récréation
amicale.
Qu'on ne
se donne même pas la peine de présenter à ce micro, tellement nos audinotes les connaissent.
Voilà, et ils ont leur nouveau CD aussi à faire écouter et à vendre aussi, parce que on parle toujours de la difficulté de vivre de ce métier. Et donc, ça nous permet d'annoncer aux gens qui viennent. Et alors, je peux vous dire, c'est la banane. Tous les gens qui viennent, aussi bien au prologue que dans la ruée vers l'heure, ce sont des gens qui sourient énormément. C'est une grande joie de se rencontrer. Quelque part, en ce qui me concerne, dans ce que je fais, et peut-être que ce sera une manière de passer un témoin à Pascal, c'est il n'y avait pas d'appareil photo dans notre quartier, on n'était pas riche, on n'a pas eu d'oiseaux pour prendre des images de rue, etc. Et quand les copains m'ont dit, mais tu nous emmerdes avec tes bouquins, nous on n'aime pas lire, ils n'aimaient pas lire, mais quand même ils avaient lu le bouquin, le premier, le roman, puis le deuxième aussi, ils m'ont dit, pourquoi tu dessinerais pas ? Et j'ai repris mes crayons, et je me suis mis à dessiner tout cet environnement. Et donc, c'est ma contribution modeste dans cette aventure. Et donc, voilà, on attend. À chaque fois, on a eu à peu près 2000-2500 personnes. Et on se satisfait de cette aventure qui a une dimension humaine.
Non, mais je veux dire, oui,
faudrait
dire. Alors. Faudrait dire, ouais, si,
pardon. Non, mais je veux dire, c'est. Non, parce que tu sais, quand on commence à faire quelque chose, il y a des gens qui. Autour de nous, on fait. Il faudrait qu'il y en ait de plus en plus. Mais... Je me dis, mais non, il faut qu'on fasse à la mesure de ce que l'on est.
Que ça reste humain, que ça reste humain. À la dimension justement, voilà, voilà, de
sans,
quartier
sans faire de la nostalgie de bas étage, ça fait penser un peu à Juin dans la rue. Enfin,
oui.
Moi, j'habitais Cocrieuxville.
On a tous connu les Clecs.
Et, voilà. Et Juin dans la rue, il y avait un moment comme ça, une espèce d'esprit fédérateur, ouais, au sein du quartier, avec, ouais, les gens qui se retrouvaient, même les différentes parties, mmh, du quartier, mmh, dans un événement commun, quoi.
Bien sûr.
Et
j'ai, ouais, vécu,
y avait,
ça,
il y avait un côté super festif, ouais, quoi.
Je crois que Doris et ouais, Christian sont en train de faire allusion à une époque où l'UMP n'était pas à la municipalité du Havre. Voilà. Non,
absolument.
Non, maintenant, voilà, on se gausse de formules, de choses, ouais, très touristiques.
Jouons de malchance, je suis arrivée.
Côté quartier.
Je ne suis pas sûr que se gausse soit tout à fait le mot.
Oui, on se branle.
Soyons
clairs.
T'es pas de gosse, Pascal?
Si, mais l'occasion, là, non.
Bon, du coup, évidemment, Doris est toujours là, vous l'avez bien vu. Christian, évidemment, est encore là, puisque dans pas très longtemps, il va nous présenter sa chronique régulière de Quai des Amphis. Mais là, Pascal, c'est à toi de lui tirer le portrait, si je puis me permettre.
Bah oui, parce que Christian m'a confié, en fait, un petit album qu'il a fait il n'y a pas si longtemps que ça, qui est évidemment en liaison avec le festival, gros mot pour le festival, mais si on peut dire, mais un album qui s'appelle Mémoire de l'heure, aux éditions Adèle, qui donc est un album de dessin que tu as fait, et de texte, qui présente en fait à chaque fois des petites images de tes souvenirs du quartier d'enfance, mmh, qui sont, je veux dire, des petits petites comme ça, chroniques de quartier, très très bien faites, et tu as ça, c'est fait comme un petit calendrier, en fait, quelque part.
Ça s'ouvre comme un calendrier,
voilà, et tu as
c'est des vues différentes.
Tu as un dessin, mmh, de Christian, avec bon, la description du quartier par lui-même, des maisons, etc. Et la relation qu'il y avait à cette époque-là dans cette partie du quartier, au niveau des gens qui habitaient dans le quartier, et la spécificité en fait de ce petit bout de quartier, mmh, je veux dire que c'est fort sympathique.
Donc on regarde
et là je vois que Pascal il est dans la rue chaude du quartier.
Voilà, j'ai pas fait exprès.
On regarde donc, c'est, je voulais dire, il y a, ouais,
quand c'est la rue Lavoisier.
Quand on ouvre effectivement sous format calendrier, on a en regard un texte et en dessous c'est des.
Et à la limite, on laisse peut-être quand on ouvre, peut-être que le lecteur va regarder l'image, ou bien il va lire avant. Mais je conseille de regarder l'image pour avoir sa lecture personnelle et de regarder au-dessus quelle était celle qu'on avait, nous, quand
moi,
on
comme
était
enfant. Je suis quand même, bon, essentiellement, comme je suis BDFile, je suis quand même centré sur l'image. Donc la première chose que
BDFile,
je vois...
BDFile,
oui.
Ah, mais ça, c'est dans les gènes.
C'est terrible. Hein. Hein, mais tu sais bien, l'hygiène, il n'y a pas de plaisir, bah, bien non, sûr. Donc là, je suis forcément tombé d'abord sur le dessin. Et j'ai observé les choses. Et après, j'ai lu le petit texte. Et je trouve que, bon, c'est vrai, il y a une espèce d'humour dans le texte, bon, très sympa, qui présente plein de choses d'une façon très rapide, mais en même temps, qui est très significative de chaque petit bout de quartier. Et c'est, bon...
Est-ce qu'on retrouve l'esprit de H1254
Bah, bien sûr.
Je suppose.
Tu le retrouves de façon plus brève, peut-être. Mais en même temps, l'ensemble de l'album, bon, te donne plein d'éléments disparates sur ce que pouvait être effectivement à l'époque ce quartier, enfin tout le grand quartier de l'heure.
Pour faire un clin d'œil à Doris, on a été habitué de plus en plus à écrire court, de plus en plus court, de plus en plus en plus court, et en fait c'est de l'écriture journalistique, en essayant d'être percutant, et puis de mettre de l'humour aussi.
Ouais, parce que bon, faut bien dire que bon, t'as quand même un style d'écriture qui est très visuel quand même quelque part. Mm.
Qui est poétique,
très
en général.
Poétique.
Je sais pas si c'est le cas,
ouais,
je n'ai pas
faut,
encore lu.
Si, parce qu'il faut, bon, il y a toute une partie aussi, toute une préface, si on peut dire,
ouais,
qui est vraiment, à mon avis, très belle.
Merci.
Sur, effectivement.
Elle est très chevaline.
Qui s'appelle
parce que...
À cheval sur les mots, justement, voilà, au départ. Et qui, bon, présente effectivement la disparition de tous les métiers à cheval de l'époque, par rapport effectivement
qui était dans nos rues,
qui était dans tout le monde, qui amenait forcément une effervescence quelque part dans le quartier, complètement différent. C'est une imagination au niveau des gamins très forte, puisque bon, il y avait tout le côté cinéma aussi qui apparaissait. Alors, en lisant la préface, on voit que effectivement les gamins étaient très imaginatifs par rapport au western qu'ils voyaient au cinéma, donc ils retrouvaient les chevaux dans les rues, donc c'est tout un fantasme quand même quelque part qui a disparu petit à petit. Mais en même temps,
c'est sûr que marcher derrière les traces de flaques de gasoil, c'est vachement moins poétique. Quoique c'est une poésie urbaine qui peut être intéressante.
Mais les gamins ne regardent plus de western, je le sais bien.
Et en écoutant Brassens tout à l'heure, le crottin derrière, ça me rappelait ce que j'ai écrit en préface un peu.
Ah oui, non, mais on ne l'a pas fait totalement exprès, mais il faut dire que quand même, il y a évidemment plein de petits ponts qui se créent. Ah, tiens, j'ai employé un langage footballistique.
Et encore une fois, il y a beaucoup de femmes dans ce livre aussi.
Hein, ah bah oui, forcément, parce que bon, il y a beaucoup de...
As-tu été étonné, Pascal, excuse-moi, de découvrir les talents graphiques de Christian?
Oui, quand même, assez.
Parce que
je savais que son frère, voilà, c'est forcément...
Ça. On connaissait Jean-Michel Affagard, qui évidemment peintre naïf de talent et reconnu d'ailleurs puisqu'il a déjà exposé à Paris voilà, quand une fois de plus on propose à nos audinotes d'aller retrouver son interview qu'on avait faite à l'époque au Festival des Bulots, au Festival de BD du Havre, mais on ne savait pas que toi, à défaut d'être polygame, tu étais polymorphe et polytalentueux à ce point-là.
Je dessinais autrefois, enfin j'ai fait des expos dans les années 80.
On t'a déjà présenté, si tu veux, comme professeur, comme écrivain, comme journaliste, comme chroniqueur et désormais comme dessinateur aussi.
Voilà.
Et que Pascal a l'air...
Moi, j'apprécie vraiment parce que bon, c'est plein de détails et surtout, bon, il y a quand même une vivacité dans les personnages, même s'ils sont statiques forcément, puisqu'il y a quand même dans le regard des gens et dans la situation qu'il y a dans l'espace des dessins, il y a une vie derrière qui est très bien retranscrite, je trouve. C'est assez étonnant. Et tu as fait ça à quoi exactement comme...
Alors c'est du crayon.
C'est du crayon.
J'aime bien parce que c'est un art, je dirais, simple. Le crayon à papier. Et j'ai testé dans une petite expo où il n'y avait pas toute la quantité des dessins. C'est très réaliste. Et les gens reconnaissaient... ils mettaient les doigts... Alors, j'avais peur parce qu'ils n'étaient pas fixés. Et ils mettaient les doigts pour dire « C'était là que j'habitais, ma grand-mère était au-dessus, puis rappelle-toi le commerçant qui était là. »
C'est fait par rapport à quoi ? C'est fait par rapport à des gravures ou...
Non, en fait, je le fais avec ma mémoire. Et quelquefois, je m'aide avec l'appareil numérique pour prendre les endroits. Mais il manque tellement de bâtiments maintenant... qu'il a fallu que je les reconstitue.
Ah oui, donc tu reconstitues de mémoire.
Je reconstitue de mémoire. D'après je remets photo. Des acteurs dans les rues et je transpose aussi, par exemple, ces fameux docks d'Ombal, anciens abattoirs, qui étaient des docks où les dockers travaillaient dedans, qui va devenir l'hôtel des entreprises. Je crois qu'on a laissé pourrir, partir, se détruire quelque chose qui était magnifique. Peut-être pourquoi pas faire une table rase, non pas par la guerre, comme aurait dit Zarifian, mais laissons tomber tout, comme ça, on aura tranquillement l'endroit pour mettre des résidences dans un autre style. Alors, cet endroit-là est restauré. On a rencontré, nous, des architectes, une association d'architectes de France, qui était là. On s'attendait à ce qu'ils saluent. Et puis, ils ont voulu rencontrer les gens du quartier.
Ah oui, tiens.
Et ils nous ont dit carrément, mais c'est un massacre à la tronçonneuse. Parce que quand il y a des bâtiments avec des baies en arc roman et qu'on découpe des fenêtres horizontales rectangulaires, on ne respecte pas l'harmonie des bâtiments. Et quelque part, quand vous irez le long du jardin fluvial, vous verrez les docks d'Ombal. C'est vraiment un massacre. À mes yeux, c'est un massacre.
C'est attaqué aussi le patrimoine. Quelque part, quoi. Donc.
Avant de repasser la parole pour conclure sur Mémoire de l'heure, Pascal, je reviens sur cette histoire de dessiner au crayon, parce qu'il y a quelque chose à laquelle je n'avais effectivement jamais pensé, et qu'une fois de plus, le journal La Décroissance m'a fait découvrir. Idée toute simple, pourquoi utilisons-nous des stylos perpétuellement notamment des jetables, dont on ne dira pas la marque, une marque qui fabrique tant de choses jetables, vous savez, des rasoirs, des briquets, etc. Ce qui pollue énormément la planète, mais qui apporte des points de croissance. Alors qu'effectivement, le crayon... Alors, parfois, c'est vrai, mais il y a toutes sortes de mines. Hein,
comme c'est un crayon pour draser.
Ça peut être un crayon pour...
Pour draser.
Non.
Ah si, il y a une gomme peut-être.
Ni pour allumer les clopes. Mais non, mais franchement, effectivement, c'est vrai, réfléchissez à ça. C'est très naturel.
Moi, je voulais redonner des lettres de noblesse au crayon.
Mais oui, mais en fait, ça tombe très bien. Voilà. Parce que justement, c'est vrai, ça ne pollue pas, ça ne crée pas tous ces déchets parasites.
Et puis on peut s'installer très facilement à n'importe quel endroit.
Et on peut gommer. Et c'est vrai que c'est joli de pouvoir gommer aussi. Voilà. Bon, écoutez.
Il faut couper les arbres.
Non, bon, bref. Pascal, je te proposerai de conclure ta chronique, si ce n'est bande dessinée, en tout cas art graphique, autour du mémoire de l'heure.
C'est un album très sympathique, je veux dire. Bon, c'est la vivacité en fait de tout un quartier, la vie de tout un quartier qui est remis à plat d'une façon.
On retrouve une vie dans les rues, bien sûr, que l'on ne voit plus hélas actuellement.
Bien sûr. Hein.
Peut-être dans le quartier de l'Or. Il existe encore des quartiers au Havre. J'entendais quelqu'un aujourd'hui qui parlait de Paris, un journaliste américain qui disait qu'il trouvait à Paris encore tout un côté populaire que nous, on croit perdu. Peut-être qu'on manque parfois de recul. Je ne veux pas dire, il est certain que tout change, tout bouge. Pour tous ceux qui habitent au Havre, par exemple, dans le quartier du Rond-Point, je crois qu'il reste encore aussi une vie populaire et une possibilité. Enfin bon.
Même dans les autres quartiers. Je vois,
moi j'ai mes parents. C'est une vie qui est autre.
Ouais. Bien sûr. Voilà, c'est autre chose. Mais il y a quand même une vie de quartier. D'ailleurs, on voit, paradoxalement, quand on en sort de ces quartiers et qu'on devient les habitants du centre-ville, on en parle beaucoup des quartiers, choses comme ça, mais on perd la vie de quartier. Moi j'ai ma mère qui habite toujours à Cocrayoville. Ils ont la vie. C'est le café chez les voisines, dans l'immeuble. Ouais. Ça, c'est encore permanent. Je veux dire, quand ma mère n'est pas chez elle, elle est soit au troisième, soit au premier, mais il y a toujours le même groupe de femmes. Et dès qu'il fait beau, c'est au balcon. Il y a encore ça, mais d'une autre manière.
Cocrayoville, pour ceux de nos audinotes nationaux et internationaux, bon, je crois qu'ils ont quand même l'habitude un petit peu, forcément, avant de parler du quartier de l'heure, de Cocrayoville, etc. Mais bon, voilà, ce sont des
Cocrayoville, c'est le plus grand quartier du Havre.
Voilà.
Et c'est le quartier où je travaille depuis 25 ans.
Eh oui.
C'est où je suis née.
C'est pas beau, ça. Je vous propose qu'on écoute encore Little Bob, et du coup, ça va être extrêmement raccord, parce que si je ne m'abuse, on va écouter un morceau sur lequel Doris Lemat, ici présente, chante avec Little Bob.
Alors, j'aimerais bien rectifier quelque chose. Je m'appelle Doris Lemat-Tiolan. Je me suis mariée. Il y a un homme qui a voulu de moi. Je tiens à le signaler quand même.
Oui, ça va, moi aussi. Il y a un homme qui a voulu de moi, mais moi, je suis contre le mariage.
Doris! Doris Lemat! Doris Lemat, c'est sa guitare. Un hommage à tous ceux qui viennent du sud-ouest.
We'll be right back. Chat, swear, shout, friends. Better flicks, pigs, came down to the fire. Blood is down, chat, swear, shout, friends.
Morceau de Little Bob sur ce bel objet qui est à la fois un CD et un DVD qui s'appelle Live in the Dockland, qui a été enregistré le 5 novembre 2005 ici même à Le Havre. Et donc là on écoutait ce morceau Riot in Toulouse. Je ne refais pas la genèse de tout ça, je vous renvoie vraiment à l'émission où Bob nous raconte lui-même comment ce morceau a été créé et toutes les anecdotes de la vie de tournée du groupe à ce moment-là, ce qui sont assez intéressants. Donc Doris Le Mathiolin, ici présente, joue de la guitare sur ce morceau. On aurait aimé passer, enfin moi j'aurais beaucoup aimé passer le morceau aussi sur lequel tu jouais et chantais Doris avec Beverly Joe Scott qui s'appelle I'm Gonna Change the World, mais qui est en fait sur le DVD mais pas sur le CD. Voilà, en tout cas on reste dans le quartier de l'heure puisque évidemment c'est en hommage à ce quartier que Bob aime beaucoup et dans lequel il vit encore, qu'il a écrit le morceau Living in the Dockland et qu'il a intitulé ce double CD-DVD Live in the Dockland. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus ? Ludovic, tu as eu la mission de... Oui, pardon. Tu as eu la mission... Il voudrait la pochette en fait, Ludo, voilà. C'est ça. On fait des signes, mais ça ne suit pas toujours... Le langage des signes, vous savez qu'on est en grand retard en France, voilà. Donc, il voulait avoir la pochette sous les yeux. pour nous dire à quel point il avait aimé ce DVD, lui qui est un cinéphile de l'extrême.
Voilà donc ce digipack qui contient, comme tu l'évoquais il y a fort peu de temps à vrai dire,
tout à fait.
Le CD du concert accompagné du DVD. Donc, concert sur lequel on retrouve un certain nombre d'invités.
Des voilà. Invités magnifiques.
Magnifiques.
Que tu vas nous citer ou pas?
Que je vais tous citer, bien sûr. Vas-y. Donc, Beverly Joe Scott, évoqué.
Beautiful Beverly Joe Scott.
Doris Lemat Tiolan, évoqué également. Filmé et Dick Taylor des Pretty Things.
Yes.
Mais oui. Un dénommé François Lebas, que pour ma part, on se perd en interrogation.
Ah, je me demande si c'est pas à la fois notre ingénieur du fion de Radio Apple Pie et aussi le chanteur-guitariste.
Ah oui, il est en train de regarder s'il est dessus. Oui, François, t'es bien dessus.
C'est quand même talent et copinage. Hein.
On l'appelle désormais Francesco Albaro dans les articles qui parlent de lui concernant Tribal Zone. On y viendra tout à l'heure avec Arnaud, et voir Double Shot, enfin bref, le voilà. Fameux François.
Mais encore Gilbert Thierry et Christian Bibi de La Haye.
Tout à fait, ce Gilbert Thierry qui lui-même a réalisé cet objet, et non pas, curieusement, si je puis me permettre, Loïc Jamais, qui avait réalisé lui-même un très beau DVD retraçant... toute une période de l'aventure, la longue période en fait de l'aventure Little Bobienne, de la story jusqu'à nos jours. Et bon voilà, enfin en tout cas là.
Qui était passé d'ailleurs dans la soirée.
Pardon.
Qui était passé,
oui.
Tout le long de la soirée.
Tout au long de la soirée. C'est vrai. Mais là, ce n'est pas Loïc qui l'a réalisé. Et voilà, nos investigations ne sont pas allées assez loin pour vous éclairer sur le pourquoi du comment. Bref.
Et en outre, un final, Whatcha Gonna Do About It, réunissant tout le monde, ainsi que Philippe et Christophe Dickinsize.
Voilà, alors ça, c'est très bien que tu le dises. Tu veux que je te...
Mais je t'en prie.
Tu veux que je te dise.
Je t'en prie.
Parce que si...
C'était une perche immense que je te tendais.
Thank you. Tu me connais. Je les prends. Donc,
un porte-cigarette.
J'avais un petit reproche à faire, léger, hein, à Little Bob sur cette histoire. C'est que quand il a organisé ce concert formidable pour ses 30 ans de carrière, on rappelle, voilà, pour écouter dans l'émission qu'il avait consacrée ici même à la présentation de cet anniversaire, il a choisi, et ça nous a fait grand plaisir, donc les invités prestigieux locaux ou internationaux que tu viens de citer, il avait choisi comme première partie King Size, qui est un groupe qu'on adore, qui malheureusement a décidé très prochainement de mettre fin à sa carrière. Bon, c'est comme ça, c'est dommage parce qu'apparemment leur dernier concert était de plus en plus garage et de plus en plus intéressant. Ils l'ont toujours été, hein, ils ont une discographie... je ne voudrais pas m'aventurer à citer le nombre d'excellents albums de King Size, mais bon, en tout cas, ils ont fait une première partie formidable, et je trouve que c'est un petit peu dommage qu'ils n'apparaissent sur cet objet-là qu'à travers, justement, l'intervention de Philippe et Christophe, respectivement chanteur, bassiste et guitariste, voilà, dans ce final. Parce que je pense que ça aurait été sympathique... Ouh, elle sonne bien, la cuvée rap avec étiquette Jérôme Sirou vendue à 5 euros ici même. Ce que je voulais dire, c'est que effectivement, King Size a fait un superbe concert en première partie de Little Bob ce jour-là. Et malheureusement, il n'y en a même pas un morceau en trace. Voilà, c'était le petit reproche. Bob et Mimi, si vous m'écoutez, voilà, je voulais vous dire ça.
En revanche, le DVD qui est lui-même signalé en tant que bonus DVD comporte des bonus. Et oui, à savoir 4 morceaux qui furent enregistrés à l'occasion du 20e anniversaire.
Donc, oui, au Trabendo.
Alors il y en a deux au Havre, place de l'Hôtel de Ville, qui sont, si je ne me trompe, High Time et Nobody's Bound to Lose, et 2 autres enregistrés en novembre 1995 au New Morning, où figure également High Time, si je ne me trompe, et un autre.
Mais tu sais, moi, High Time, quand François Lebas ne joue pas dessus, ça ne m'intéresse pas.
Et au Havre, faut quand même préciser que c'est avec Guy-Georges Grémy qui a un peu une autre gueule en genre de guitariste. Quoi.
C'était mon... Guy-Georges Grémy, on va dire, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, un historique de la story.
Barbe noire ce soir-là ou...
Pas au Havre.
Non.
Pas au Havre, non.
Barbe rousse, peut-être.
Pas. Je crois pas, mais je ne l'ai pas vu.
Enfin, Ludo, bon, disturbez pas le chroniqueur, s'il vous plaît.
Saurions-nous nous en contenter ?
Saurions-nous nous en contenter ? Non.
Non, car il y a en outre une galerie photo.
Oui.
Et oui.
Qui est magnifique, c'est vrai.
Qui est magnifique, mm. qui est très très bien. Alors, sinon, sur les deux morceaux donc enregistrés au Havre, on peut notamment entendre en intro Nobody's Bound to Lose, Bob dédier ce morceau à qui de droit ? Toute personne se retrouvant en situation presque précaire du fait de cette société de merde. Il faut entendre Bob le lâcher. Sinon,
ah, mais c'est un tribun.
Oui.
Et Roberto Piazza.
Voilà. Alors sinon, il faut signaler aussi, j'ai évoqué ce final, donc ce rassemblement final, mais peut-être conviendrait-il de dire que Doris Le Mathiolan y est, bien entendu.
Certes.
Voilà, très François Lebas et tous les autres. Mais Doris Le Mathiolan y est sans sa guitare. Et c'est l'une, quand même, des choses les plus spectaculaires, visuellement, s'entend, de ce DVD. Peut-être peux-tu nous détailler.
Elle est
puisque là, effectivement,
nos audinots ont envie de savoir
voilà,
ce qui s'est passé.
Voilà, il y a un certain nombre de personnes autour de cette table qui étaient présents à ce concert, donc qui pourront en parler mieux que les personnes qui n'en ont eu que la captation via DVD. Fut-elle très bien, mais ceux qui ont vécu l'émotion de plein fouet.
Alors, tu tends une perche une fois de plus, et là, Doris, pour qu'elle raconte pourquoi elle n'est pas avec sa guitare dans le grand final, si je puis dire, de ce soir-là. Moi, personnellement, en tant que spectatrice, il faut quand même savoir qu'il y avait des milliers de personnes, et c'est tant mieux ce jour-là. Donc, j'ai vu ce que je pouvais voir, étant dans le public, évidemment. Donc, toi, Doris, qui étais sur scène, effectivement. Ton outil de travail a morflé, on peut le dire, je crois.
Mais en fait, j'ai pas très bien compris. Parce que le grand final, moi, il y a un truc qui m'avait un peu gêné, c'est que en fait, on avait prévu de faire deux morceaux qui étaient I'm Gonna Change the World et Riot in Toulouse. Et puis après, il y a eu le morceau final, où ça, j'avais pas été prévenue et où on est venu me chercher vite fait alors que j'avais déjà bien entamé l'after show.
Oui, je m'en souviens personnellement, nous étions.
On est venu me chercher pour me dire c'est le final, vas-y. Et moi, le morceau, je le connaissais pas parce que moi, il faut quand même dire que je ne suis pas une fan de Bob et surtout, je ne connais pas sa carrière. Donc, les morceaux, je les ai découverts. Je veux pas faire celle qui est très jeune, mais c'est vrai que par rapport à Bob, lui, quand il était en pleine. Gloire entre guillemets, moi je jouais encore à la Barbie, voire même encore avant. Et donc quand il me parlait de
alors avant Riot in Toulouse,
je n'avais pas tous les tenants et les aboutissants, donc j'ai été obligée de lui demander de me prêter des disques que je n'avais pas pour écouter, pour savoir ce que c'était que ces morceaux-là. Bon, il y a déjà ça. Donc le final où je me suis trouvée un peu très gourdillante à essayer de fredonner un morceau que je connaissais pas du tout avec des gens où je me disais, tiens, c'est peut-être le gardien des Doc Ocean, puis non, il paraît que c'est un mec qui jouait de la guitare il y a longtemps. Ou... que je ne connaissais pas. Je voyais un vieux. Je ne savais pas qui c'était, moi.
Je ne peux pas te laisser dire des choses comme ça. Je ne veux pas. Non, t'es une véritable saloperie. Excuse-moi. Tu as tout à fait le droit.
Bien fait d'avoir pété ta guitare ce soir-là.
Tu as tout à fait le droit, je n'ajoute pas, d'apprécier, de connaître ou non ces choses-là. Bon, après, tu as participé à l'histoire. En revanche, bon, après coup, c'est une vraie saloperie. Je veux dire, je comprends bien qu'on ne soit pas tous fans des Pretty Things, quoique. Mais,
je ne sais même pas ce que c'est les Pretty Things, honnêtement. Bah, écoute, non, mais là, en l'occurrence, on voit un espèce de monsieur un peu âgé. Je lui demandais, voulez-vous que je vous aide pour qu'il monte quelque part? Parce que je me suis dit, c'est garé à partir des Doc Ocean ou un truc comme ça. Donc. Je me suis dit, je vais l'aider, ce monsieur-là.
On croirait
qu'il parle anglais. Il parle anglais.
Je suis désespérée.
Il parle anglais, en fait, je ne le connais pas du tout. Quoi.
Bon, d'accord.
Ça c'est pour rigoler. L'autre truc, c'est...
Savoir comment Little Bob, il va rigoler quand Vactive va écouter l'émission.
Je vais le prévenir, non, mais il me connaît.
Bon, bref, donc, en fait, Ludo, ne te tendait pas une perche comme ça,
non,
je crois.
Non, mais parce que c'est pour
ça.
C'est
pas pervers à ce point-là.
C'est celui-là, pour moi,
c'est
le final, qui était un peu curieux, quoi. Et l'autre, le Riot in Toulouse, j'étais en train de jouer, et à un moment, Bob vient me voir et me dit « Vas-y, défonce-toi ». Et donc, du coup, je lui dis « Bon, bah, comme il me donne l'autorisation, je le fais, quoi ».
Tu te fous à genoux.
Je me mets à genoux, sauf que j'avais voulu faire un peu la coquette ce soir-là où j'avais des talons.
Certes,
et quand je me relève, je glisse royal et je tombe en arrière.
Royal.
Et en tombant, je pète mon manche de guitare, mais tout net, quoi. Mais je m'en rends pas compte tout de suite. Et je me dis, bon, tant qu'à tomber par terre, je le fais un peu spectaculaire. Donc du coup, j'en rajoute un peu, j'en rappe ma guitare à bout de son.
Ça y est, sur le DVD, hein, les amis.
En pensant quand même à François, en me disant, je lui ai dit que j'allais lui prêter ma guitare après, ça va pas le faire tellement, quand même. Va falloir qu'il demande.
François Lebas, François Lebas.
Hein, et au moment où je reprends ma guitare pour jouer, je m'approche en plus, là, je vois que j'en tire plus rien, quoi. Plus et donc, du coup, je continue dans les. Je me dis, tiens.
Mais dans ta tête.
Et après, je pars et je me dis, bon, de toute façon, il n'y a rien à en tirer. En fait, c'est en revenant, ils sont venus chercher ma guitare, qu'ils ont vu que la tête de manche était complètement cassée, que voilà, c'était râpé, quoi.
Bon, la suite de l'histoire, on ne pourra pas la raconter parce qu'elle serait très longue et Dieu sait qu'il y a eu un feuilleton, enfin Dieu, je ne sais pas, mais autour de cette guitare, de sa réparation. Mais bon, voilà, ça nous amènerait quasiment sur une autre planète. Quoi qu'il en soit, et avant de te relaisser la parole, Ludo, effectivement, bon, rappelez-vous, ce soir-là, Little Bob, Roberto Piazza, de son petit nom, fêtait ses 30 ans de carrière discographique, c'est-à-dire 40 ans de scène quand même, et d'aventure rock'n'rollesque, ce qui nous donne cet objet, Ludo.
Oui, donc moi qui suis un petit peu profane également, quoique nous reçûmes Bob, que je l'ai déjà écouté, l'une des choses qui m'a marqué, c'est les racines blues qui sont très affirmées et très très présentes sur la musique. Donc vous qui y étiez, parce que le DVD regroupe 14 titres, alors je ne sais combien il en a joué ce soir, combien de temps a duré le concert.
Bah, moi non plus, parce que comme notre intervenante précédente, à un moment donné, j'étais un peu attaquée moi-même, donc je ne peux pas témoigner de tout. C'est l'avantage d'avoir des enregistrements en même temps.
Je n'étais pas attaquée, je pensais avoir fini ma tâche.
On est d'accord.
Voilà.
Oui, pardon.
C'est-à-dire que...
Pascal qui était là aussi.
Doris était au taquet, toi tu étais attaquée.
Voilà.
Ensemble d'ailleurs, non ?
Et ben oui, et ça s'est extrêmement bien fini. Car nous étions dans un restaurant
fini,
qui s'appelait autrefois le Café des Grands Bassins, où la première rue Berleur, vu que tout est dans tout, nous avait donné rendez-vous. Voilà.
Très mauvaise idée, les os à moelle en grande quantité.
On en reparlera. De l'intérêt de vomir en public, bon, c'est autre chose. Donc Ludo, allez, toi tu es le seul sérieux, probablement chroniqueur de la soirée, donc s'il te plaît. Voilà, conclue-nous ça vite.
Bah, de mon humble point de vue, il y a une vie, il y a une rage dedans qui est quand même très communicative. Voilà. Mais je l'ai fait exprès.
Et dehors aussi, il faut bien le dire.
Voilà.
Ah oui, eh ben, à propos de rage dehors, il y avait la rage dehors, parce que rappelons-nous que ce concert a eu lieu au moment où les quartiers étaient en révolte totale. Chape de plomb depuis, on est d'accord, et désolé Doris, de la droite comme de la gauche, je vois pas très bien qui allait vraiment se soucier fondamentalement de ce qui se passait dans les banlieues, dans les quartiers, pour avoir un programme intéressant par rapport à ça. Enfin bon, bref, rage dedans donc.
Donc, c'est, enfin, je veux dire une banalité, c'est effectivement très très bien, et il faut aussi citer donc citer les invités.
Bien sûr.
Mais on me rappelle aussi de ne pas oublier les sonorisateurs.
Évidemment.
Yves Leroy, le grand chef Leroy, me dit-on.
The grand Leroy, hein, évidemment. Voilà. Leroy.
Et son fils au monitoring.
Tout à fait.
Voilà. Signalons en outre
c'est
que.
Son nom, ça, au monitoring.
Au monitoring.
Qui c'est qu'elle est
accouchée. Au monitoring, c'est son nom Inca. Parce qu'ils sont un peu comme ça chez les Leroy. Ici, tu nous entends. Toi aussi, ma poulette. Voilà. On l'appelle Rico sinon, mais bon. Donc, voilà, au monitoring.
Voilà. Les notes de pochette révèlent aussi la participation d'un dénommé Guillaume Maquet.
Guillaume Maquet, dont nous
risquerions de reparler.
Je pense. J'ai cru comprendre qu'il devait être là ce soir, mais apparemment, le tournage d'un clip. De Double Shot au Tribal Zone hier.
La perturbe bien un peu.
Donc, travailler le 1er mai, ça perturbe un petit peu le monde du rock'n'roll. Donc Guillaume Maquet n'est pas là ce soir, mais je pense qu'Arnaud Clément de Tribal Zone, qui est là.
Il n'est plus la lèvre en plus.
Qui a disparu, mais va ressurgir derrière les micros dans pas longtemps. Pour
allô,
nous en parler.
On parle de lui, c'est bon, il arrive.
Voilà. Eh bien, on en aura des conneries. Après, on s'étonne que les émissions soient longues. Allez, on écoute un autre morceau de Little Bob, François.
Est-ce que je peux faire un commentaire, un dernier
Bien sûr, ma Doris.
Moi, moi qui ne connaissais pas donc très bien Little Bob, j'ai quand même, outre le fait que c'est un personnage super attachant, c'est quand même lui qui était la star de la soirée, parce qu'il a vraiment, lui, beaucoup d'énergie, et il n'y a pas photo, la chemise rouge sur le truc, c'était bien lui qui était en relief, et là-dessus, il n'y a pas de doute, toute plaisanterie mise à part, c'est quand même quelqu'un, quoi.
Non, puis c'est vrai que, comment dire, il s'est décarcassé pour que cette soirée-là, on en avait déjà parlé dans l'émission,
il y croit, quoi, voilà, il est...
soit accessible au plus grand nombre de gens pour un prix extrêmement modéré. Il a distribué, il a réussi à exiger et à obtenir de la municipalité et des docks Océanes où ça se passait, qu'il y ait quand même de toute façon un prix extrêmement bas pour le public, qu'il y ait un nombre d'invitations extraordinaires. Et pas uniquement pour remplir, parce que de toute façon, sur son nom et sur son talent, au Havre, évidemment, il y aurait eu du monde. Donc, déjà, rien que pour ça, chapeau, monsieur Bob. Et très belle pochette aussi, où justement, on ne le voit pas. Donc, un narcissisme et demi. Non, mais sans déconner, elle est très belle aussi, je trouve, cette pochette de ce double CD-DVD, parce que il est voilà, penché sur son pied de micro. Et voilà, on voit pas son visage, et c'est assez magnifique, enfin, je pense.
Et c'est symbolique, il prend son pied.
Il prend son pied, yes.
Dressed up high in a sneaker,
Little Bob, Little Bob. Chapeau Bob, nous disions, alors qu'effectivement, Bob Chapeau, ça marcherait vachement moins bien.
Moins. Ça marche moins. Moins. C'est comme le chapeau d'Antoine Pinet. Hein.
Oh, Antoine Pinet. Bravo, Christian, one more time. Amis audinotes, vous l'avez compris, depuis quelques mois, il y a un challenge dans l'esprit de Radio Apple Pie. Qui placera le plus souvent son Antoine Pinet? Il fut une époque où Ludovic, chroniqueur de cinéma bis de son état, était le meilleur dans ce domaine. Mais alors là, Christian Afagar, ici présent à ma droite.
Puis je me permets de rétablir une vérité, c'est que je n'emploie Antoine Pinet qu'à bon escient, à savoir appuyé par des références historiques. Ce soir, je ne me fendrai pas d'un Antoine Pinet, mais vous ne perdez rien pour attendre à la prochaine.
Enfin, oui. Le chapeau, c'était quand même ce qui caractérisait cet Antoine.
Comme dirait peut-être Arnaud Clément ou pas, si on ne pinait qu'à bon escient.
Oui,
Je vous laisse réfléchir là-dessus.
Oui.
Pardon, si on ne parlait de pinait qu'à bon escient.
On rappellera en outre qu'il faut être peu pour bien dîner.
C'est une contrepétrie, vous l'avez tous découverte, mais on ne l'a dit pas, parce que bien sûr, tout l'intérêt des contrepétries, c'est de ne pas révéler leur sens caché.
De rien à comprendre surtout, c'est beaucoup plus sympa.
Mon Pascalou. Bon, allons, talents et copinages, il y a des dents copinages, on l'avait bien compris, mais il y a aussi talents. Et c'est bien pourquoi nous allons poursuivre, après avoir évoqué la grande aventure nouvelle de Grand Final, après avoir parlé de La Ruée vers l'heure, après avoir parlé de Mémoire de l'heure, après avoir parlé de Little Bob et de ce très bel objet qui vient de sortir, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous et qui vous concerne tous, amis audinotes, puisque depuis que vous nous écoutez, c'est-à-dire depuis 109 émissions maintenant, je crois, nous avons des génériques magnifiques, fabriqués peu ou prou par Arnaud Clément, voire par Tribal Zone.
Oui, surtout.
Voilà. Tribal Zone que nous reçûmes ici même il y a quelque temps.
Deux, trois jours.
Non, ici même, Arnaud, je veux dire autour des micros de Radio Apple, je ne parle pas à la maison. Parce que voilà. Donc, quand vous nous présentez votre premier opus, qui s'appelait Ecce Homo.
Absolument.
Voilà. Donc là, le temps a passé. De l'eau est passée sous les ponts, du vin a coulé dans les verres. Et nous en sommes à votre deuxième CD, qui lui s'appelle Route 69. Puis-je me permettre de te demander pourquoi ce nom?
Pourquoi Route 69?
Tout à fait.
Je sais pas trop.
Eh bien, merci.
69, ouais, je vois bien. Route, je vois bien aussi. Je peux vous expliquer. Roots, bah parce que dans Tribal Zone, on utilise des voix ethno, comme on peut les qualifier. Donc, le côté route, c'est indéniable. Et puis, 69, bah, c'est 69, c'est un hasard total. Et on s'est rendu compte que comme on fait de la musique sur machine, et, que c'est paramétré en BPM, en bits par minute.
Waouh. Et que donc, Antoine Pinet n'aurait pas remis.
Mesure par mesure, on sait où on en est. On s'est rendu compte qu'à la 69e mesure, il se passait toujours quelque chose.
Dom leader historique de Radio Apple Pie nous signale que justement son t-shirt c'est ça, dit dans BPM.
Ouais.
Alors, incroyable.
69, on verra tout à l'heure peut-être. Hein,
voilà.
Non, non.
Monsieur Dominique de Vouton, on ne parle pas hors des micros, s'il vous plaît.
Donc 69, parce qu'on s'est rendu compte que, à la 69e mesure, dans Tribal Zone, il se passait toujours quelque chose.
C'est pas vrai.
Ouais. Si.
Ça alors. Dans chaque morceau.
C'est dingue. Oui, c'est dingue.
C'est dingue. Francesco confirme. D'accord.
Une espèce très bien, de hasard incroyable, mais voilà, c'est comme ça.
Donc, il y a un titre.
Sans le chercher. Hein. Bon, forcément, par la force des choses, sur les derniers morceaux, on a un peu provoqué le truc à 69e mesure. Il se passe quelque chose. Voilà.
On va le prouver tout de suite parce qu'une bonne chanson vaut mieux qu'elle en discours. Hop là. I'm not going to be able to do it. Trans-Siberian Express.
Non, absolument pas.
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Tiens donc.
Ça serait plutôt Pacific Attack, ça. Si ma mémoire est bonne. Hein, parce que... Mais en tout cas, non, c'est pas Trans-Siberian Express, ça je sais.
D'accord. Bah, il y a des couples qui fonctionnent bien, d'autres moins. Bon, voilà. C'est pas grave, de toute façon.
Il est en train de se rendre compte que l'ordre des titres, c'est pas le bon.
C'est un excellent morceau de Tribal Zone. Francesco.
C'est le morceau dont tu t'es servi pour faire votre générique. Là.
Voilà, bah, donc c'est bien. C'est pour ça qu'on ne devait pas l'écouter, vu qu'on l'avait déjà écouté dans le générique. Donc...
Enfin, la vraie version, si vous voulez, la version qu'on vous a mis en générique, c'est un petit résumé.
Il y a filmé qui fait un solo.
Bon, je vais me suicider. Oh, merde. Je comptais attendre dimanche 20h, mais bon, tant pis. Bon, alors, brisons-la. C'est pas grave. Non. Les audinotes ont l'habitude, faudrait pas quand même la garder cette habitude-là parce que c'est pas bien, mais bon, voilà. Libre penseur que nous sommes. Donc, si je me réfère à un mec vachement intéressant et pointu comme journaliste, ça va nous changer de nous, ah. Qui s'appelle Pascal Collet.
Paco.
De son petit nom Paco.
Absolument.
Après un décoiffant Ecce Homo 5 titres, Tribal Zone Récidive avec un 8 titres. Bon, jusque-là, c'est bon.
Jusque-là, ça va.
Excellent. Route 69 s'aventure dans d'autres contrées en invitant des voix islandaises, sibériennes, pygmées, tibétaines, aborigènes, japonaises et équatoriennes. C'est vrai aussi ?
En gros.
Voilà. Sur le morceau qu'on vient d'écouter, par exemple, c'était quel genre de voix que vous êtes allé chercher par-ci, par-là ? Si je m'en rappelais, je te le dirais.
Sinon, je peux te le dire. C'est des voix des îles Kiribati dans le Pacifique. Voilà.
D'où le nom.
Voilà.
De Pacific Attack Pacific et pas Attack. Du tout de Trans-Siberian, forcément.
Bah non.
Eh oui.
Ça ne veut plus rien dire.
Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, voilà. Bon, le duo à l'origine de l'excopage Roots Rock est bien connu. Bon, jusque-là, on sait. Ça, c'est François Lebas et Arnaud Clément.
Voilà, voilà.
Voilà, ça, c'est vous. Doris.
Alors, comment ça se goupille ? Moi, je me suis posé la question de savoir si c'était d'abord.
Ça se dégoupille surtout.
Si c'était d'abord les voix qui donnaient. Parce qu'il y a une histoire de timing. Oui. Donc, est-ce que c'est après, c'est recalibré ? Non. Est-ce qu'il y a un pitch ou quelque chose comme
non.
ça qui se met dessus ?
Non, les voix sont naturelles.
Naturelles,
ouais. Telles quelles, on les prend comme ça. Donc, ça détermine le tempo, la note.
Il y a une boucle ou pas qui est faite ?
Ça dépend, oui, en règle générale.
C'est
ouais.
leur langage ouais. entre eux, amis Odinot. Hein,
en règle générale,
non, une boucle, c'est-à-dire qu'il va, il va prendre un extrait de ces voix-là et
tourner.
Il va les mettre en boucle pour qu'elles reviennent régulièrement comme ça.
Ce qui va nous permettre de trouver le BPM voilà, pour
famous.
Synchroniser les machines. Voilà. Et puis après, bah, mes collègues à la guitare, à la basse font le reste.
Et les voix, vous les piquez où ?
Sur internet, je suppose.
Comme ça vient, ou là où on les trouve, ouais, sur internet, sur des disques. C'est...
Vous allez à la bibliothèque municipale ?
À la bibliothèque municipale.
Ben, oui. Et dans ces cas-là, alors comme c'est détourné, ça n'est pas considéré, c'est considéré comme un sample, comme par exemple font les mecs qui font du
complètement, ouais. ouais.
Comme un sample d'esprit.
C'est un sample.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
Oui, on aurait peut-être des droits à verser à quelqu'un à un moment donné, mais.
Sur votre premier album, et c'est tout à votre honneur, vous avez dit que s'il y avait des bénéfices, toutefois,
ouais.
vous les verseriez ouais. à des fonds ouais. de soutien aux peuples indigènes. Si
voilà,
ou
voilà. on adapterait un petit Inuit ou quelque chose comme ça. Mmh. Voilà.
D'accord. Mmh.
Ou on mangerait des Esquimaux l'été.
ouais.
Et comme l'été dure de plus en plus longtemps, vu le réchauffement de la planète.
Et que l'ours blanc est en péril.
Voilà.
Et on garderait les bâtons jusqu'en hiver pour allumer le feu.
Ah non,
voir, autre chose, mais
si on chante allumer le feu, c'est comptabilisé comme temps de parole pour qui vous savez.
Oui, absolument. On fait pas.
D'accord. Bon, eh bien, dans le tout et n'importe quoi, est-ce que foutre pour rendre hommage à notre ami Philippe Collin. Bon. Seul, nous dit toujours Paco, hein, dans l'excellent magazine sur Internet.
Le
la guitare de Francesco rejointe par la basse de Guillaume Maquet. Dont nous parlions il n'y a pas si longtemps,
voilà.
et jouer à l'ancienne. Tout le reste, chant de cérémonie, air de fête, joute verbale, polyphonie, instrument traditionnel, passe par les machines d'Arnaud, c'est toi,
oui.
qui ajoute ensuite des boîtes à rythme et quelques ingrédients. Quelques ingrédients ?
Ouais, basilic, thym, farine, boulette.
Voilà, boulette.
Oui. Non, les ingrédients, je sais pas. Après, voilà, c'est une chronique comme une autre. Elle est très bien. C'est, je trouve ça super comme chronique. Mais c'est pas forcément comme ça que ça se passe.
Non, mais justement, bah, c'est un peu ça qu'on voulait vous demander. Partant de là, non, je trouvais que partir du canevas de l'article de Paco était intéressant, mais justement pour te demander, qu'est-ce que c'est ? On en avait déjà parlé au moment du premier album, mais ouais. Vous avez évolué depuis, votre musique a évolué aussi. Donc, les ingrédients...
Non, le fonctionnement est toujours le même. Le seul changement, c'est que bah, maintenant, effectivement, il y a Guillaume à la basse. Et puis, bah, ça fait une personnalité en plus, à l'inverse de... Ouais. Des keyboards qui se réduit à grand final en enlevant la basse, ben nous on a rajouté la basse. Avant on le faisait à la machine. Bon, c'était peut-être un petit peu réducteur, on trouvait la machine quoi, mais comme
ça,
nous
ça,
on a décidé.
Ça humanise la basse, voilà, elle humanise, mais parce que justement.
Comme on a décidé de
ne
pas s'en séparer du son de basse, de la nappe, tu vois, du son qu'il y a derrière qui tient le truc. Ben, on a pris un bassiste et ben, on a pris Guillaume parce que...
Donc maintenant vous êtes vraiment officiellement trois. Non, parce que oui. Quand tu parles de basse, déjà Ossine Tachfine,
oui,
de
venu,
à Minima avait participé, ouais, au premier, voilà, enregistrement.
François avait enregistré des basses, moi j'en avais enregistré une aussi. Alors,
oh, excuse-moi.
Oui, oui, absolument.
I'm sorry.
Mais voilà, donc non seulement il fait la basse, mais il participe vraiment, voilà, à la composition des morceaux, il amène ses idées.
Doris,
est-ce que c'est jouable en live, ça ?
Ah, ouais. Tu anticipes évidemment sur une de nos questions ?
Oui, complètement. C'est là où on veut en venir aussi. Quoi. Pour l'instant,
vous n'avez pas fait de concert pour
l'instant ?
Non.
Parce qu'on n'avait encore pas beaucoup de morceaux. On avait commencé, en fait, le premier disque, c'est un 5 titres qu'on a fait avec François, juste tous les deux. Et puis, Ossine qui est venu sur un morceau. Voilà, bon. Mais en gros, juste François et moi, on a fait 5 titres, un peu pour voir ce que les gens en pensaient. Quoi. Tu vois, pour avoir une idée, est-ce que c'est un truc viable ou pas, quoi, dans l'oreille des gens. Quoi. Et puis, on a eu des bons échos, des bons retours, donc on s'est dit, continuons. Là-dessus, on s'est greffé Guillaume. Et puis, on vient de sortir ce disque-là, qui est 8 de plus.
Si je ne m'abuse,
ouais.
Vous avez l'ambition aussi de ne monter sur scène que si derrière vous, il se passe des choses visuelles, ce qui est quand même important de le dire. C'est peut-être aussi ça qui vous prend du temps à construire quand même.
Ouais, oui. Non, c'est sûr. C'est-à-dire que les morceaux, oui, on sait les jouer. Ils sont jouables tels qu'ils sont sur le disque. Sur les disques, on peut les faire sur scène, pareil. Quoi. Maintenant, on trouve que visuellement, c'est peut-être pas très, très intéressant. Moi, un mec aux machines, tu vois, ça, c'est irregardable sur scène. Il n'y a rien.
Ça se discute pas. Bon.
Je trouve pas ça très intéressant. Quoi. Un guitariste, un bassiste, bon, d'accord, un peu plus, mais on s'est mis d'accord tous les trois. On s'est dit, voilà, ça serait vraiment bien qu'on ait des projections, des images. Que soit on va se démerder à les faire nous-mêmes, on va faire un montage comme on peut, soit on va trouver des gens pour nous aider à faire ça. Quoi. Et puis. Pierre, le webmaster de
Radio Apple Pie,
lui était complètement séduit par l'idée. Il nous a dit, moi ça m'intéresse, je veux bien essayer vous faire du montage vidéo. On a dit d'accord, prenons déjà Pierre.
Enfin, il a commencé, Samuel Thiénot je crois, était recruté par vos soins.
Samuel Thiénot, d'Éléphant Rouge, pareil, qui partant pour essayer tout au moins quoi, toi, de faire un montage vidéo, parce que nous on s'est surtout mis sur des montages de photos, des enchaînements de photos, on se prend un peu la tête sur la synchronisation des images avec la musique, et puis ça nous prend beaucoup de temps quoi. Et puis c'est pas notre truc à la base, c'est aussi quelque chose qu'on découvre complètement,
vous êtes, et c'est tout à votre honneur, extrêmement perfectionniste sur, mais franchement c'est bien, sur le fait que tout soit justement comme tu le disais synchronisé, et voilà, il y a une grande difficulté pour ça quoi, parce que si vous voulez monter sur scène pour jouer ne serait-ce, je sais pas moi, 10 morceaux, pour avoir 10 je sais pas, éléments visuels derrière, que ce soit des vidéos, des montages photos bien syncopés qui correspondent effectivement au rythme des morceaux, voire au thème, c'est
ça prend du temps,
c'est compliqué.
Bon, pour nous, ce qui va dans l'autre sens, c'est que comme encore une fois on joue sur une base de machine, le tempo est toujours le même.
Bon, on nous fait passer des
le
mots.
Le tempo est toujours le même, c'est-à-dire que le coup de cymbale qui va sur le début du refrain, il sera toujours placé au même endroit, ça arrivera toujours au même moment, et on n'aura pas une demi-seconde de retard, jamais, ça sera toujours comme ça. Donc, une fois qu'on a fait notre montage vidéo, on n'a plus à faire attention à être dedans, puisque ouais. Les machines, elles nous imposent cette régularité.
Et alors, si François et Guillaume, eux qui sont des êtres humains vivants, jouent à côté, que se passe-t-il ?
Je les vire.
Ah, d'accord. J'en attendais pas moins. Le morceau suivant. Au suivant.
Des îles Satawal avec un super bon crooner japonais par-dessus.
Parce que les îles Satawal sont.
Dans le Pacifique aussi.
Voilà.
C'était d'accord. Notre période pacifique. Là.
Voilà. Et oui, juste avant de rentrer en guerre civile, vous aviez arrêté l'alcool. Non, faut savoir être pacifiste à un moment donné, hein, mais ouais. À un moment, faut savoir arrêter de l'être. Bon, on verra ce qu'il en advient de nous. En tout cas, ce morceau-là, personnellement, je l'avais choisi parce que je trouvais qu'il était, je suis pas la seule, extrêmement dance floor. Et que si vous aviez une diffusion qu'on vous souhaite, hein, vraiment universelle, franchement, ça serait un tube dans les discothèques. C'est obligé, ça, non?
Tu crois? Ah ouais, je sais pas.
Qu'est-ce que vous en pensez, les amis?
Longtemps qu'elle a pas été en discothèque.
Non, je crois, j'allais dire aussi.
Les discothèques de hard rock, ça n'existe plus.
Je ne vais pas non plus dans les discothèques, mais c'est vrai que c'est un morceau qui détonne par rapport aux autres.
Ah.
Qui est, j'allais, après une chronique improvisée, cafouilleuse, mais sincère envers Bob, j'allais presque oser que ce morceau-là sonnait plus fun que les autres, parce que tu as beaucoup parlé de machines, mais qui sont très ancrées dans le rock. Bon, là aussi, guitare évidemment, mais pour moi, ça se rapproche plus effectivement de dance floor, voire fun que les autres morceaux de l'album.
Mais oui.
Bah merde, toi je te l'avais dit.
C'est parce qu'il y a un côté un peu groove.
Voilà, c'est ça.
Et la rhythm and blues.
Mais ça, encore une fois, c'est pas une décision de notre part. On gaule des samples. En premier, donc, c'est les voix de filles, là, les voix des îles Kiribati, sur lesquelles on a construit toute la structure du morceau. Elles groove. Voilà. Donc, on n'a pas eu le choix. C'était comme ça. Il fallait les suivre.
Voilà. Voilà, non mais franchement, c'est vraiment intéressant parce que ça fait penser, si je puis me permettre, quand on a accueilli deux sculpteurs ici, on les a pas adoptés, hein, je vous rassure, mais on les a accueillis au micro de Radio Apple Pie. Ils nous ont dit tous les deux la même chose, qu'ils travaillent la pierre, le bois ou quoi que ce soit. C'est que finalement, la matière elle-même
t'indiquait
la voie dans laquelle tu allais aller. C'était comme ça et pas autrement. Et donc, c'est un peu ce que tu es en train de nous dire, quoi, que se basant sur ces voix-là, ça vous amène, François à la guitare, Guillaume à la basse, et toi, tout le travail que tu fais après avec les machines et le mixage, dans un certain sens.
Surtout moi.
Bien sûr. Paix, président.
Non, c'est vrai.
On l'appelle comme ça.
C'est vrai que ce groupe Tribal Zone, la façon de travailler les trucs, c'est totalement comparable, c'est de la sculpture, quoi. Donc on a
la sculpture sur voix,
quelque chose, et puis ça nous impose
la couleur,
voilà.
La couleur.
Comme je disais tout à l'heure, le tempo, la note, les accords qui vont suivre avec.
Doris, ce qui est assez rigolo, en fait, c'est on reconnaît bien le jeu de François,
oui.
Il est détourné de ce que tu fais habituellement, tout en étant quand même assez reconnaissable. Et c'est marrant le choc un peu des cultures, quoi. Entre le côté hyper ancestral des voix, le côté hyper moderne de la technologie qui et puis le côté un peu au milieu.
En même temps, c'est très vrai ce que disait Ludo, c'est que
moi,
effectivement,
c'est
non.
J'entame une carrière de critique rock.
Non, c'est vrai ce que tu dis.
Point. Doris, moi one point.
Ah, moi, je me casse.
C'est aussi ça, Radio Apple Pie.
Non, c'est vrai ce que tu dis, Doris, c'est vrai. Mais
merci.
C'est aussi vrai ce que disait Ludo, c'est que au niveau des machines, on utilise boîte à rythme et sampler, mais pas comme un groupe de dance, tu vois. On les utilise.
Cry Me a River, elles sont.
Les boîtes à rythme, si tu veux, elles sont programmées pour être jouées par un batteur, par exemple. Il n'y a pas de folie, de trucs impossibles à refaire en vrai.
Vous avez cherché des voix de Oulam Batteur. Je t'ai piqué une vanne, Pascal, là. Non.
Mais celle-là, je l'aurais pas faite, elle est tellement mauvaise.
Qu'est-ce qu'il faut pour entendre? Bon, eh bien, ça va pas nous empêcher de continuer à écouter Tribal Zone et à parler avec Arnaud et avec Doris de Grand Final. Mais du coup, tu l'auras cherché. C'est toi qui vas nous parler maintenant, Pascal, et de Polar en plus. Alors, Polar et la manière.
Tout de suite, là? On y va?
Tout de suite, là. Parfaitement,
donc
monsieur.
On y va fort.
Bah, oui.
Ok, d'accord, on va parler de La fille dans le verre, de Jeffrey Ford, justement.
Si t'as frais, mets un pull.
Talent de copinage, il y a les deux mots. Hein.
Dans la collection Lune d'encre, chez De Noël, collection qui est habituellement, effectivement, consacrée plutôt à de la science-fiction ou de la fantasy. En même temps... c'est quand même quelque chose qui s'y rapporte. Parce que, bon, le père Ford, qui est né en 55, il est prof dans le New Jersey, ça, on s'en fout, c'est pas grave. Il est assez peu connu jusqu'à maintenant en France, sauf jusqu'au moment qu'il reçoive le prix Grand Prix de l'Imaginaire de la Nouvelle Étrangère en 2006, pour un truc qui s'appelait Exoskeleton Town, qui est paru dans la revue Galaxy. En 1998, il obtient le prix le World Fantasy Award pour un roman qui s'appelle Physiognomie, qui est l'histoire en fait de Clay, comment dire,
c'est très bluesman,
un personnage, bah ouais, un personnage qui travaille dans une grande ville. Et son travail, ça consiste à étudier la morphologie des gens et les caractères, caractéristiques physiques des gens, mm-hmm, pour en déterminer leur caractère, mettre aussi au grand jour leur peut-être leur
penchant, leur
penchant, leur défauts, quelque
leur
part,
leur identité nationale,
leur sombres instincts, peut-être aussi quelque part. Et donc, tout d'un coup, il y a une mission qui va l'amener à découvrir le sort peu enviable qu'il y a eu pour ses prédécesseurs et effectivement se reposer sa question de sa fonction. Et ma foi, c'est un roman très intéressant, qui est un roman sur l'identité et la fonction de l'État par rapport à certaines choses, si on peut dire, dont il a fait deux suites
avec ton gros stylo,
dont il a fait deux suites qui s'appelaient Memoranda et L'au-delà, qui sont deux très bons romans aussi. Et donc là, La fille dans le verre est son sixième roman. L'histoire, c'est dans l'Amérique de la Grande Dépression et de la Prohibition, donc dans les années 29, dans ces eaux-là. Mm-hmm. Diego, un jeune émigré mexicain de 17 ans, Shell, un maître arnaqueur, un espèce d'Houdini du pauvre.
Un espèce de
Houdini du pauvre. Si tu veux un illusionniste.
Houdini. Oh putain.
Houdini.
Bah, tu me redis ça, oui, d'accord. Donc, un illusionniste. Laisse-lui, si tu nous écoutes, pauvre, du fond de ton lit.
Et Anthony Cléopatra. Mm-hmm. Bon nom quand même. Un ancien Hercule de foire. Quoi, Hercule de foire, oui.
Non, là, j'ai bien entendu.
Toute ma vie, j'ai rêvé d'être un Hercule de foire.
Bien sûr.
Oh, toute ma vie, j'ai rêvé.
Alors, ce trio, il soutient en fait de l'argent aux riches
en
organisant des séances de spiritisme. Parce que, bon,
ça se discute.
Habilement truqué.
Ah.
Quand même. Bah, il faut dire que l'époque n'est pas non plus favorisée pour le travail. Donc, ils ont trouvé cette solution-là.
Oh, écoute, on n'emploie plus ce mot-là parce que.
Corps des assistés.
Ah non, justement, ils ne sont pas assistés. Ils ont quand même une fonction dans la société qui est intéressante. Sauf qu'un jour, Shell, au cours d'une des séances, aperçoit dans le panneau vitré d'une porte l'image d'une fillette qui est disparue depuis un certain temps. Est-ce que c'est un fantôme ? Un vrai fantôme qu'il a vu, est-ce que c'est vraiment une hallucination? Donc Shell ne se pose même pas la question, il décide de se lancer en fait sur avec son équipe dans la recherche de cette fillette, d'où ça devient franchement une aventure très dangereuse, puisqu'il part sur les traces, au final, petit à petit, sur les traces de tarés, vraiment les tarés, attelés.
Ça nous étonne énormément. Détardé dans ta chronique, Pascal.
Attelé à la purification de la race par le sang.
Ah oui, d'accord.
Oui, ça vous rappelle certaines choses peut-être, quelque part. Mouvement qui est d'ailleurs assez étonnant, parce que dans le roman, il cite quand même des personnes très connues de l'époque. Mouvement soutenu par des gens comme Henry Ford, Prescott Bush, grand-père de George Bush, W. Bush. Donc, c'est un thriller effectivement ésotérique quelque part, tragicomique, parce que bon, il y a quand même une bonne dose d'humour, se lisant d'une seule traite. C'est un mélange d'aventures
des blanches,
comme on connaît au début du siècle avec les aventures de Sherlock Holmes, parce que bon, c'est quand même une intrigue policière avec un détective, un trio de détectives, etc. Mais qui se sert aussi de tout un tas de personnes, comme le fait Sherlock Holmes,
il a toujours dans l'ombre des gens qui interviennent pour l'aider.
Bah, par exemple, le célèbre docteur Watson.
Voilà, non, puis même les petits gars des quartiers pauvres qui viennent de filer des coups de main. Et là, bon, en fait, c'est des personnes qui sont des monstres de foire, puisque tu te retrouves avec des sans bras, des sans mains, etc. Qui sont des
freaks.
Potes, des freaks, qui sont des potes, effectivement, à l'Hercule de foire. Et HL, qui a déjà sévi aussi, qui a fait des tournées de ce genre de cirque. Et c'est là le côté intéressant, surtout qu'ils affrontent quand même une tranche de personnes qui n'acceptent pas du tout ce genre de personnage. Ils se retrouvent, bon, à se foutre sur la tronche avec eux.
N'ayons pas peur des mots.
Faut bien le dire, pour sauver, effectivement, le Shell par lui-même, etc., plus une autre jeune fille.
Shell que j'aime, bien sûr.
Voilà. Je l'ai pas faite, moi, celle-là.
Ludo est effondré. Bah oui, bah, fallait que quelqu'un le fît.
Non, mais je sais que sa conclusion va nous laisser quoi.
Mais ceci dit, bon, c'est un mélange d'aventures, effectivement, ce type d'esprit des romans du début du siècle, d'histoire, parce qu'il y a un fond historique qui est quand même intéressant, parce qu'on découvre plein de choses sur le fond historique de l'époque, notamment que, bon, le Ku Klux Klan n'a pas sévi que dans le sud, il a sévi aussi, il y a une grande proportion du Ku Klux Klan qui était dans Long Island à l'époque, dans l'île de Long Island. Et puis le fond social, puisque bon, c'est quand même sur le fond de dépression de l'époque, des années 20, 30. Voilà, donc cet album, enfin ce roman a obtenu aussi le prix Edgar Allan Poe, qui est quand même une bonne référence. Et puis, il faut bien le dire, c'est un peu dans la lignée quand même, je sais pas si tu te souviens de l'adaptation qu'il y a eu d'un roman de Christopher Priest.
Quand il dit tu, c'est Ludo, hein, voilà. Il parle, je signale pour les audinotes.
Il y a eu il n'y a pas longtemps Le Prestige.
De Christopher Nolan.
Voilà, de Christopher Nolan, qui est une adaptation en fait d'un roman de Christopher Priest.
Le Prestige, un naufrage.
Voilà, qui quand même baigne dans l'illusion complète. Là, c'est un peu la même chose. Le personnage principal, un des personnages principaux, Shell, ne baigne que dans l'illusion, dont la principale illusion, en fait, sera une des révélations finales et qui débouche sur une illusion assez forte.
Qui débouche ?
Bien sûr,
qui débouche,
comme des
bouteilles. Yeah.
Qui débouche sur une illusion assez forte parce qu'en fait, ça remet en cause complètement la relation entre le jeune homme, lui, et son principe de métier au départ. Je ne vous en dis pas plus. Vous verrez vous-même dans le roman si vous le lisez.
Bien sûr que nous allons lire. Excusez-moi, je me suis jetée un peu, d'une manière un peu virulente sur mon micro. Bien sûr que nous allons le lire, Pascal, car nous lisons tous les livres que tu chroniques avec beaucoup de passion et d'attention.
Mais dis-moi, ça m'a l'air totalement imprégné de culture populaire, tout
total,
ça.
Mais bien sûr, c'est pour ça que j'en parle, Ludo, voilà. Sans problème. Parce que j'adore, de toute façon, tu connais bien que j'adore tout le roman populaire du début du siècle, etc. Et donc, du coup, hop, je me resserre un petit coup de vin pour voir la fille dans le verre, histoire de continuer mon aventure.
Eh ben allons-y, où vont les boulevards.
Il reste dedans.
Eh bon, on va pas se gêner.
Donc, d'entamer aussi une aventure, moi.
Ah pardon, d'entamer une aventure.
Oui, je pense que bon.
Oh, on est trop impatients, si c'est ça. Oui,
mais pas avec des fous qui veulent purifier la race blanche. Tout le monde sait que ce n'est pas la réalité.
Non, ben non.
N'est-ce pas, hein, ni contrôler d'ailleurs l'arrivée des immigrants dans son pays. Tout cela n'est que de la fiction. Des mauvaises langues diront peut-être que ce sera de la friction un de ces jours. En tout cas, c'est un excellent thriller. Et voilà, donc je vous le conseille fortement. Ça s'appelle La fille dans le verre, de Jeffrey Ford, aux éditions de Noël, dans la collection Lune d'encre. Pardon.
Merci Pascal. Vous avez quand même cette chronique extrêmement écologique. Vous avez quand même réussi à citer Le Prestige. Et que totalement, et ça tu as vraiment raison, là-dessus on ne peut pas te dire le contraire. Allez hop, merci parce que...
Oh.
majesté, force et créativité de ces voix étrangères mélangées avec ce début de ce morceau qui ne s'appelle pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Aïe Oussama. Aïe, non, il ne s'appelle pas comme ça. Il aurait pu s'appeler comme ça et peut-être d'une manière subliminale, le dit-il. Enfin non, on n'est pas là pour... Non, franchement, on n'est pas là pour ça. Bref, nous écoutions encore Tribal Zone, ce second CD en vente dans les meilleures crèmeries pour la modique somme en plus de 10 euros qui s'en plaindraient. Ami Audinote, si vous êtes un peu bousculé dans vos habitudes d'écoute et il n'y a pas de contrepétrie, c'est un peu normal. Nous avons bricolé cette émission, comme on l'a dit, copinage et talent, talent et copinage. Et nous avons zappé momentanément la chronique Quai des Amphis de Christian, qui nous rejoindra dans 15 jours pour mieux la faire encore. Il sera bien reposé de la 4e édition de la Rue vers l'heure, ça sera formidable. Pascal n'a peut-être pas dit son dernier mot, mais enfin, sa chronique polar.
BD. Je viens de faire la chronique polar.
Oui, bon. Bon,
d'accord. Mais comme c'est une BD polar, c'est pas.
Laissez-moi tranquille, je veux mourir. Qu'est-ce qui se passe sinon sur France 2?
C'est la solidarité ricanante entre chroniqueurs.
C'est ça. Ricaner, ricaner. Bon, d'accord. Eh ben, tu vas moi ricaner, cher chroniqueur. Puisque du coup, si j'ai bien compris, après un morceau que tu as toi-même choisi et qui s'appelle. Non, je vais même pas essayer de le dire.
Eh bien, je vais te le dire tout de suite. Qui s'appelle
voilà. Moi, c'est net,
nous continuons net. Tout à fait dans le ton de l'émission, voilà. Qui s'appelle
Désinvolte et Fautrac,
voilà.
C'est un hommage à Philippe Collet, en fait.
Qui s'appelle Chant de Meradil, Chant de Ni Otum,
voilà.
Et donc je donnerai la traduction après,
bien sûr. J'étais en train de dire à Ludo, sois poli, parce que nous parlions de cinéma indien, comme forcément cette musique nous l'indique et sa chronique probablement par là. Et que me répond-il, Tamoul ? Je dis non, franchement, Ludo, non, non, ça n'est pas...
Et ce n'est pas du cinéma indie, c'est du cinéma tamoul. C'est du cinéma indien, évidemment, au sens large, d'autant qu'il est... il fonctionne sur les mêmes formules assez souvent. Formules
mais
tout à
les
fait
ont place aux revendications des tamouls.
En l'occurrence, celui-ci, j'en suis pas persuadé. Bon, mais justement, on va venir, on va y venir. Donc... Voilà, donc c'était Chandmera Dil Chandni Otum, ce qui traduit, enfin traduit de l'anglais, hein, s'entend évidemment, donnerait
donne en français.
La lune est mon cœur et tu en es la lueur. Wow.
C'est... Arnaud Clément, s'il vous plaît.
Voilà, interprété par Mohamed Rafi, qui est un plaisantin, un je m'en foutiste. Ah oui, donc il frôle l'imposture, puisqu'il ne s'est porté coupable que de 26 000 chansons en tant qu'interprète. Voilà, il est mort en 1980. Plaisantin par rapport à Lata Mangeshkar, dont je parle assez fréquemment. Donc, on reparle...
Par rapport au Charlot.
Pourtant, Rafi ne rit jamais.
Raffinerie jamais. Ça c'est une blague spécifiquement havraise. Ou alors Fosse-sur-Mer. Vraiment. Voilà, on y va.
Voilà, on reparle de cinéma indien d'ici deux secondes, le temps de faire deux annonces.
Bien entendu.
Pour celles et ceux qui sont encore dans le bar. Demain,
ils sont nombreux.
Et ils sont nombreux. Et ils vont,
et
se,
ils
manifester. Et ils vont se manifester de manière bruyante, tapageuse, qui sait.
Bon, on ne va pas refaire toute l'histoire du bar l'Applefeuille et de son voisinage. Poursuis donc ta chronique.
Demain à l'Éden, l'une des dernières séances des LIP, l'imagination au pouvoir de Christian Rouault, en présence de Charles Piaget. Alors, peux-tu nous rappeler qui est Charles Piaget ? Mais je t'en prie.
Mais avec un grand plaisir. Avec un grand plaisir, parce que pour une fois qu'il ne s'agit pas de chronique asiatique, de cinéma bis, où je ne connais rien, où je ne peux pas du tout t'aider, tu n'en as pas besoin de toute façon. Charles Piaget, bien entendu, était un grand leader, le mot ne se posait pas comme ça, mais bon, syndicaliste de la CFDT. Quand la CFDT, je vous rappelle, n'était pas une annexe du MEDEF, comme de nos jours, hein, enfin, ça n'engage que moi, mais bon. À l'époque, la CFDT était bien au contraire plutôt à la gauche de la CFDT et une bonne partie de l'extrême gauche se syndiquait voilà, là-dedans.
Quelles années, ça ?
On est dans les années 70, on est en 60, je sais pas, qu'est-ce que je dirais, tu ne l'as pas non plus, ah on est emmerdé, d'accord, bon, on est au milieu des années 70, et il se passe une chose extraordinaire en France, c'est qu'une usine se met en grève, dans la foulée de l'esprit de ce mai 68, tant décrié par qui vous savez, et là, les ouvriers décident une chose extraordinaire, mais tout à fait logique, c'est de non, nous ne fermerons pas l'usine, nous la reprenons tous ensemble et nous mettons en autogestion et nous continuons à produire. Et voilà, et ils produisent en l'occurrence LIP, puisque c'est de ça qu'il s'agit, était une usine de montres, bon, c'est assez connu, LIP, etc., de montres prestigieuses. Et voilà, les travailleurs ont mené ce combat.
Ils vendent, Christian, voilà. Ils vendent des montres, j'ai d'ailleurs une des montres avec l'usine sur le cadran. C'est un trésor, ils ont récolté, enfin, et ils vendent évidemment. Contrairement à... Enfin, c'est violemment interdit, évidemment. C'est un trésor,
bien sûr,
c'est un trésor de guerre.
Voilà. Hein. C'est ce qu'on appelait à l'époque les trésors de guerre. C'est-à-dire ouais. que quand la classe ouvrière, qui existe pourtant, mais avait encore le droit de se montrer, avait encore... c'est pas elle qui n'avait pas le courage, mais enfin, n'était pas abandonnée, on va dire, à la fois par les syndicats et les partis politiques, de gauche, voilà. Il était encore possible de dire, voilà, nous... C'est nous et non pas les actionnaires et non pas le patron qui fait fonctionner l'usine. Ce sont les travailleurs. Et donc, ils remettent toute l'usine en route et ils vendent ces montres, puisqu'en l'occurrence c'est ça. Ils ont effectivement, comme dit Christian, ce trésor de guerre. C'est-à-dire que voilà, ils ont pris en otage des montres. Hein, c'est horrible. Hein. Et voilà. Et ils les vendent.
Nous étions des resellers. Nous,
voilà. Nous étions des resellers. Et ils vendent éventuellement à bas prix. Mais surtout, ce qui compte le plus, je ne sais pas si tu voulais le dire, je ne veux pas anticiper sur ce que tu allais dire là-dessus, mais il se passe évidemment, comme dans toutes les luttes, une rencontre. Parce qu'il faut savoir évidemment que dans les usines, les gens ne se connaissent pas. Parce que chacun est dans son petit domaine sectorisé, peut-être moins chez Libre que dans des grandes entreprises comme Renault, etc. Mais bon, les gens ne se connaissent pas forcément. Il y a ceux qui sont à la chaîne, il y a ceux qui sont ailleurs, les contremaîtres, les uns, les autres. Et là, l'occasion d'une grève, surtout longue, vraiment durable et formidable comme celle-là, les gens se rencontrent, parlent, organisent des choses, et une vraie vie commence. Et aussi, l'idée de l'autogestion, j'y reviens, parce que c'est autre chose que de dire « on fait grève », pour 3 francs 6 sous, ce qui n'est pas forcément de ma part un reproche moral, loin de là. Mais bon, voilà, on fait grève pour une autre idée de la vie. Et c'est ce que mettent en place les LIP, d'où le fait que ce film s'appelle Les LIP, l'imagination au pouvoir. Et Charles Piaget, qui sera là demain au Havre, et qui est en tournée, en grande tournée, voilà, est un témoin de cette époque pour dire que c'est encore possible, ça l'a été à ce moment-là. C'est beaucoup plus difficile maintenant, mais c'est encore possible. Voilà. C'est vraiment une leçon de lutte à la gueule de l'ultralibéralisme. Place au cinéma.
Nous en discuterons demain avec Charles Piaget.
Mais je vous l'espérais.
Et lorsque nous rentrerons de cette projection et ce débat, nous pourrons regarder Arte, où une fois de plus, il faut louer les responsables de la programmation de manière générale, et plus spécifiquement pour leur casse trash.
Coutière.
Castrache, c'est la version castra indienne. Ah, c'est ça.
Puisque, bon, évidemment, tout n'est pas trash.
C'était la lupification, d'ailleurs.
Mais Arte, juste très brièvement, continue à creuser le sillon de l'érotisme nippon après La Bête aveugle la semaine dernière. Ouais. Demain, rempilera avec Raigo de Takashi Zeze. Le film est pour ma part inconnu, mais c'est Takashi Zeze. Alors, le réalisateur, je le connais de nom, le film, non. Et. Juste pour citer, extrait du commentaire qui figure sur le site d'Arte, arte.tv, Takashi Zeze signe en 1997 ce film dans lequel l'érotisme est totalement absent car le sexe y apparaît dépouillé de toute de sensualité, misérable et froid comme la mort. Personnellement, j'ai hâte de voir.
Wow. Takashi Zeze. Bah, hâte de voir peut-être, mais pas de pratiquer. Enfin,
non. Bon, voilà, nous restons dans des registres.
La fiction, c'est
purement
une chose,
artistique.
Voilà, et évidemment.
Charmi, évidemment. Donc.
Et voilà, et sans transition, donc on en arrive au sujet de ce soir, cinéma indien, avec un hommage, ou tout du moins une approche, du cinéma de Nasir Hussain. Alors, Nasir Hussain, le bien connu, je tiens à le préciser tout de suite à l'intention d'un certain présidentiable qui, à cette heure-ci, a peut-être fini son débat, et qui, d'après sa consonance, risquerait de vouloir l'embaucher dans son hypothétique ministère de l'identité nationale
et de l'immigration réunie
et de l'islam régulateur des quartiers en l'absence de politique sociale. Ouais. Nasir Hussain est indien et de toute façon, il est décédé le 19 ou le 13 mars 2002 selon les sources. Donc c'est raté.
C'est pas sûr.
Ça c'est fait. Un réfugié politique de moi. Bon, alors.
Voilà, donc.
C'est donc, pas sûr qu'il soit mort.
Sait-on jamais. Donc, Nasir Hussain, on va parler brièvement de deux films disponibles assez facilement au Havre.
CHK Vidéo.
Non, pas du tout. Disponibles assez facilement au Havre. Et je profite de ce jeu de mots pitoyable pour m'emparer des objets en question.
Oups. Ça n'est pas très radiophonique, mais le vlac qui s'empare d'objets. La boule vidéo présente.
Il s'est tiré très vite. Il a piqué très vite. Il s'est plus donc c'est ça qu'il a mis.
Alors, bruit de papier froissé. Oui.
Donc, alors, ça va être très difficile et je sens poindre les ricanements.
Pas du tout, Ludo.
Parce que les films ne sont à l'heure actuelle pas sortis officiellement en France. Ils n'ont pas d'édition prestigieuse, on va en reparler brièvement parce que les sous-titres français sont absolument faramineux, voire contrarient réellement le suivi de la narration. Voilà. On peut les trouver très facilement au Havre, là où on trouve des films indie, tout bonnement.
Et où?
Et bah, du côté de la rue Aristide Briand, tout bonnement.
Voilà, des films
chez,
indie.
Voilà, chez Divali.
Il faut le dire.
Voilà. Et aussi le marché qui a lieu tous les samedis et qui encadre l'université. Voilà, marché où est présent un marché.
Qui encadre. Qui enrobe, qui embrasse l'université.
Qui embrasse l'université.
On n'est quand même pas dans une logique d'encadrement.
Oh, il n'y avait pas d'encadrement.
Ah bon, voilà.
On était dans une logique géométrique. Mais évidemment.
Il n'y a pas encore des militaires qui mettent les jeunes délinquants dans des.
Mais absolument
des marchés.
D'autant que j'incite à y aller. J'incite à y aller.
Incite à y aller.
Mais bien
sûr.
Un
MySpace. Non, pardon. Non, j'arrête définitivement. Vas-y, Ludo.
Puisqu'on peut y trouver. Yadon Kibarat, 1973.
Yadon Kibarat. Un film breton. Un film breton, probablement.
Sidom Kibarat, il se fait du beurre.
Désolé, ben, tu nous l'as dit, hein, tu nous tournes des perches. Hein,
et puis c'est pas fini. Ainsi que Oum Kisise Kumnahin, 1977.
Je ne te ferai pas l'offense de te dire Hatchoum parce que ça te rappellerait tristement Bon Baiser de Hong Kong, des Charlots.
Ou Takashi Miike, maintes fois évoqué à cette antenne.
Ainsi que sa tâche qui mimi. Ah, là. Oh merde, on dirait que Sarkozy a gagné le débat. Non, bon.
Ça recommence.
V'là que ça recommence. Désolé, Ludo.
Oum Kisise Kumnahin. Dont le titre, à nouveau d'après traduction anglaise, signifierait.
On croirait du Lovecraft.
Nous ne valons pas moins que quiconque.
Ce qui est vrai. Voilà. Nos vies valent mieux que leurs profits. Voilà. Bon, voilà.
Et voilà. Donc, deux films, très brièvement, Nasir Hussain. Donc, né en 1931, il va débuter comme scénariste, notamment auprès de Filmistar, très inconnu. Compagnie indienne de l'époque, sauf par les spécialistes, qui va, malgré ses maigres budgets posés durant les années 50, ce qui va être les bases de ce qu'on appelle actuellement Bollywood, c'est-à-dire prépondérance du star system, importance de la musique et du chant, bien entendu, et parfois au détriment de l'intrigue. Il accède à la réalisation en 57 avec Tumsa Nain Deka, dont je n'ai pas la traduction, hélas.
Oh, hélas. Peut-être que Tribal Zone, ça vous fait une piste.
Et va réaliser 17 longs métrages jusqu'en 1988. Il tournera en indie, majoritairement, mais également en Bhojpuri. Je le savais. Voilà. Qui est enfin, comme...
maintenant qu'on a construit l'Europe, on n'en est plus là. Sinon.
Donc c'est un film anti-américain. Quoi.
Cette image magnifique de Mitterrand et Cole, main dans la main. Non, Bhojpuri, ça n'existe plus en France, ça ne se dit plus. C'est mal ce que tu dis, Ludo. Bon, alors voilà. Voilà, on dit allemand ami.
Anti-américain.
Qui est, comme vous n'êtes pas sans le savoir, tout bonnement un dialecte de l'hindi.
Mais bien sûr.
Voilà. Et il tournera également en ourdou, qui est la langue officielle du Pakistan.
Tout à fait.
Voilà. La majorité de ses films sont donc en hindi et en 73, c'est donc Yadon Ki Baharat.
Ah. Voilà. Le même.
Voilà. Sur une musique de R.D. Bourman qu'on avait déjà évoquée, quel compositeur de Cholet dont j'avais parlé.
Ah, bien sûr. Petit bouchoir.
Cholet, qui est considéré par certains comme le film le plus important de tout le cinéma indien, qui est le condensé de cinéma Bollywood et Masala. Voilà. Voilà.
Garam.
Les scénaristes sont les mêmes que pour Cholet, Raved et Salim. Et ce film, donc Yadon Ki Baharat, creuse le sillon très couru à l'époque, des frères séparés dès la naissance. Donc, par souci de simplification, je ne citerai pas le nom des protagonistes, juste les acteurs.
Oui,
méga stars en Inde, à défaut de l'être ici.
Mais grâce à toi, ils le seront probablement bientôt. Voilà.
Donc il y a Dharmendra, Vijay Arora et Tariq. Bon. Voilà, trois frères.
Il n'est pas mort, Arora.
Pascal.
Bah, pitoyable, mais génial. Ça fait marrer.
Bon, trois frères.
Trois frères, alors qu'ils sont enfants, leur père est assassiné,
non.
Car le père a été témoin d'un cambriolage nocturne et le père comble de malchance est peintre, donc est capable de reproduire le visage.
C'est vrai que c'est un comble de malchance.
Mais ce qui lui vaut...
Mais s'il est mort, comment il
peut... Non, mais justement, il a été assassiné du fait de sa capacité à identifier.
D'autant pour moi.
Voilà. Donc, ce qui vaut une intrusion au domicile par des bandits masqués chapeaux dans la pure tradition du...
Chapeau. Plus... Bon, monsieur Bob.
Plus pure tradition du western américain. Le père trépasse, la mère succombe. Les gamins se dispersent. Dharmendra deviendra...
Il se disperse. Ah, tel Armacha Massoud. Bon, bref. Allez. Pauvre Ludo.
Je t'admire.
Mais tout le monde l'admire.
Ah, t'inquiète pas, il y en a un deuxième derrière.
Bon, allez. Ça, c'est un titre de film. T'inquiète pas, il y en a un deuxième derrière. C'est un titre de film. C'est bon, vas-y.
Je suis l'auteur des titres de Max Pécasse.
Voilà. Bien joué. Bon, alors.
Alors, donc, Dharmendra...
C'est les titres, ça va.
Suivra un parcours à la limite de la légalité en participant à divers cas. Ce sera le dur d'entre les frères. À preuve, lorsqu'il retourne au village natal et qu'il prend le train, ce n'est pas en compartiment spécial, c'est tout bonnement debout sur le toit après avoir sauté sur le toit depuis un pont. Donc on ne plaisante pas.
Non.
Non.
C'est le Belmondo.
Le bébel.
Oui, d'une certaine manière, les grands acteurs virils, il est aussi question de virilité, évidemment, du mal protecteur et du mal revanchard et charmeur, évidemment, sont l'un des grands thèmes, évidemment, l'un des grands thèmes de ces films. Vijay Arora, lui, sera recueilli par un domestique, voilà, au service d'un grand bourgeois, car dans ces films, tout consensuel qu'il soit, il est toujours... Très très fréquemment en tous les cas. Très très fréquemment. Pas dans le film tamoul que tu évoquais tout à l'heure.
Oh, t'en prie.
Mais en tous les cas, très souvent question, bah, tout bonnement, de question de classe.
Ah.
Eh oui. Tariq, le troisième, lui poursuivra une carrière de chanteur de charme à la ville. Eh oui. Et
si tous les Tariq du monde pouvaient en prendre de la graine.
Et de guitariste flamboyant, tel qu'on peut le voir sur la jaquette du film.
Oh, qu'il est beau! Taré! C'est un peu autre chose que le mec qui voulait un moratoire sur la lapidation des pommes.
Puisque.
Lui, il la casse pas sa guitare.
Et il pourrait la casser, puisque lunettes de couleur, quand ce ne sont pas des culs de bouteille, chemise colorée à outrance, talonnettes, il renvoie n'importe quel champion d'air guitare à ses anecdotiques gratouillages.
Oh yeah, yeah. C'est quand même pas une conclusion.
Nullement.
Ah, ouf. Comment qu'on est rassuré.
Ce n'est que l'échauffement.
Talonnette et gratouillage. Ça aurait pu être aussi bon le nom de l'émission. Yeah. Mais... Donc les trois frères,
voilà.
Bien compris, donc trois.
Tariq sera le lien de par ses chansons, puisque Tariq, à partir du moment où il se produit sur une scène, n'aura de cesse d'interpréter cette chanson qu'en famille, parents et enfants interprétaient dans le...
Et que tu vas nous jurer tout de suite a cappella ?
Nullement, parce que le temps nous presse et qu'il ne saurait être question de digression dans cette chronique.
Ne te dépose pas comme ça. Oh là là, c'est dégueulasse. Bon, enfin.
Tariq sera donc le lien entre, évidemment, les deux frères ne se sont jamais revus. Chacun a poursuivi son parcours. Dharmendra se livrera à quelques casses, quelques cambriolages, y compris pour l'assassin de ses parents. Et oui.
Carrément.
Qui ne retrouvera que, évidemment, au terme du film. Entre-temps, il aura rendu tenté de rendre moult visites en prison pendant 10 ans.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un film tamoult.
Pendant pas moins de 10 ans, un dénommé Jack, qui participa à l'assassinat funeste.
Est-ce que c'est le Jack C.
Vijay s'éprendra de Sunitra.
Sunitra.
Eh oui,
ça, t'as vu la sensualité quand tu dis ça.
Ah bah Sunitra, tu la verrais, tu regarderais le film, tu verrais comment Sunitra.
J'y arrive. Sunitra, qui est bien entendu la fille du bourgeois qui emploie son père adoptif.
Oh, mais...
Eh oui.
Oh là là là. Comment la rencontre entre les trois frères va être possible dans un contexte pareil ?
Eh bien, comme dans Umkisise Kumnaïn...
J'allais te le dire, t'as dû le savoir, Juliette, franchement.
Oui, évidemment.
J'allais te le dire, ça me rappelle quelque chose.
Donc, comme dans...
Naïn, le laisser pour compte, le fils de domestique,
le boche pourri.
devra endosser une identité factice, celle d'un notable ou carrément de son propre patron, donc Umkisise Kumnaïn, pour pouvoir approcher et tenter de séduire sa promise.
Voilà. Voilà. Qu'elle est belle. Elle est belle.
Eh bien, tu m'ôtes les mots de la bouche.
Oh, j'ai peur.
Car Sunitra n'est autre que Zinat Aman. Née le 19 novembre 1951 en Allemagne. Et actrice de pas moins de 64...
En Allemagne.
En Allemagne.
D'où
celle qui parle le boche pourri.
Qu'est-ce qui est là étonnant là-dedans? Je comprends pas, moi.
Ah ben, bon, ouais, non, mais,
le cinéma est international.
Moi, j'ai tout compris, je vais pas aller voir le film.
Allons.
Non, il a raconté déjà la fin.
Bah oui, ah non, vous n'avez pas tout vu.
Et actrice dans 74 films.
En un an.
Née d'une... Voilà. Née d'une mère hindoue et d'un père musulman.
Très dur.
Elle effectue une partie de ses études à Los Angeles avant d'être journaliste puis, et de remporter le concours de Miss Asia Pacifique.
D'où
ce qui lui ouvrira des portes.
Ce qui lui ouvrira des portes. Notre Miss Asia Pacifique, c'est sûr d'en ouvrir des portes.
Et pendant ce temps-là, il y a Dom qui barate.
Ibarat.
Bon, je t'en prie.
Voilà. Son premier film sera le très obscur parce que visiblement vu par personne, The Evil Within.
Même pas par toi ?
Non !
Oh, merde !
Tourné aux Philippines par le méga obscur Lamberto Villarellana. Mais tout cela n'est qu'an... Mais tout cela n'est qu'anecdote. Puisque sa carrière commence vraiment en 71 avec Hare Rama, Hare Krishna.
Arrêt obligatoire.
Arrêt sur image.
Et là, ça devient important.
Soyons cinéphiles, merde.
Et là, ça
devient... Oui, ça devient important, excusez-moi.
Voilà, film...
On a parlé tout à l'heure de Rec et tout. Il y avait forcément une quelque part.
Ah ouais. Film resté fameux pour représenter un folklore hippie tel qu'on pouvait le montrer à l'époque. Et les charlots n'y sont pas étrangers.
Les hippies qui auraient des clochettes.
Tout en ayant pour morale, bien évidemment, de renforcer les valeurs traditionnelles comme son titre l'indique.
Ah, ça, c'est très dommage, par contre. Alors là, vraiment,
et ça, c'est très dommage.
Commencer aussi bien pour finir comme ça.
Et à partir de ce rôle, aussi étrange que cela puisse te paraître, et je sais que tu vas contester.
Mais probablement. Bah, vas-y, du moins.
Elle est considérée comme l'une des actrices qui a révolutionné l'image de la femme dans le cinéma indien. Puisque dans celui-là, elle sera une hippie désabusée et apparemment junkie selon certains résumés.
Le Ketmos indienne.
Mais elle ne s'arrêtera pas là.
Non.
Dans Roti Kabda Aur Makan.
Qu'est-ce qu'elle a, Sakane?
Écoutez, ça suffit. Comment voulez-vous que nous soyons citoyens du monde si nous ricanons à chaque mot étranger que prononce Ludovic dans ses chroniques?
Elle sera celle qui quitte son compagnon chômeur pour un millionnaire.
Ah. Oh, c'est pas bien. Oh.
Dans Ajnabi.
Ajnabi.
Elle sera la femme qui travaille et qui envisage l'avortement.
Ah bah dis donc. Elle l'envisage...
Dans Mano Ranjan, elle sera une prostituée. Dans Dund, elle sera la femme qui a une relation extra-conjugale.
Oh, relaxée.
Ah ouais, carrément.
Une relation. Une bon, relation ça va. Relaxante. Une
relaxitude.
Ça va, Arnaud Clément de Tribal Zone.
Et dans Satayam Shivam Sundaram en 77, elle brisera un tabou en embrassant son partenaire sur la bouche pour la première fois dans l'histoire de l'Inde postcoloniale au cinéma.
C'est récent ou pas ça?
77.
Ah non, bah parce que récemment il y a eu encore un truc comme ça, non?
Oui, non, mais. D'accord. Elle n'a pas brisé le tabou définitivement, dirons-nous.
Non, bah elle a été une pionnière, en tout cas, c'est bien.
Ça a été la pionnière, apparemment. Wow. Et en 1980, dans Insaf Kar Taruzu, elle jouera.
Voit le mec qui, quand même, bosse à Médecin du Monde. Hein.
Elle jouera la protagoniste revancharde d'un Rape and Revenge, apparemment, dans les formes.
Rape and Revenge.
Je pense que
viol et vengeance.
Je pense que le titre parle de lui-même.
Ah bah pas forcément, tout le monde n'est pas.
Dans le film qui nous occupe et auquel il faudrait quand même revenir un moment ou un autre, tu en conviendras.
Mais bien sûr, mais on attend que ça. Revenons-y.
C'est très d'occidentalisme.
Vous n'avez pas le monopole de l'ethnologie, mes amis.
Voilà, c'est très provocateur et forcément ambigu, étant donné la fascination, attraction envers le mode de vie occidental et en même temps la répulsion, parce qu'il y a toujours la tradition à sauvegarder. Ses traits sont moins saillants, il n'en demeure pas moins que, comme dans la majorité de ses films, elle apparaîtra sans les vêtements traditionnels, puisque c'est probablement la première actrice indienne à être apparue dans des tenues strictement occidentalisées.
Des ménéjupes.
Et c'est là. Et c'est là que les deux films, Yadon ki Baharat et pendant ce temps-là, et Oum Kisise Koum Naïn. Non. Et évidemment, révèle aussi leur saillie musicale et chorégraphique hallucinante.
Je trouve étalonesque dans tes jugements ce soir.
Bon. Il y est aussi question de performance scénique. Bon, on a parlé du
scénique.
Du champion de la guitare.
Scénique dans tous les coins, d'ailleurs.
Désaï.
De la musique rassembleuse, puisqu'évidemment, les trois frères se retrouveront pendant la chanson. Et c'est plutôt réussi. Alors, évidemment, c'est tout. C'est une esthétique archi 70. Hein. Tu peux y aller, l'école Pélatarte.
Ah, bah tant mieux, mais c'est un régal. Les pattes d'Ève.
Le soft focus. Le travelling semi-circulaire opportun. Les panoramiques, etc. Les frères se réuniront au bout de 2h15. Parce que, à l'instar de ma chronique, il faut rappeler que le film dure 2h35.
Et la chronique, ce qui n'est pas non plus très long.
Bon, finalement.
Mais
Film chroniqué sur Radio Volpox.
Mais Oum Kisise Koum Naïn dure 2h50.
Seulement.
Et c'est là que Nasir Hussain donne la pleine portée de son talent. Ne parlons que de la chorégraphie et de la musique.
Oh oui, parlons-en.
Puisque cette fois-ci, la conquête de la belle. Alors, il ne s'agira pas de l'histoire de deux frères, mais évidemment de deux rivaux amoureux, dont un qui va prendre l'identité de son patron. Et tous les deux, effectivement, il y en a évidemment le patron, le riche, est promis à la belle. L'autre avait fait serment, lorsqu'ils étaient enfants encore, de se marier avec elle. Oh. Mais il est éjecté comme rien, comme une merde. Voilà.
Bah, c'est ça l'ultralibéralisme.
Du fretin, par le père parvenu. Ils se livreront à un concours d'un disco.
Christian, t'es extrêmement témoin de cette histoire-là, parce que dans son quartier de l'heure, il aimait bien une petite Algérienne. Il a une demi-veste, parce qu'il ne veut pas partir avant la fin de ta chronique. Une demi-veste, il se dit, est-ce que c'est comme moi, quand j'étais petit, jeune et poète, que j'avais une amie algérienne, son papa faisait partie du FLN, voilà, Yasmina. Bon, bref, tout est dans tout.
Bon, bref,
je disais ça, c'est pour rigoler, hein, Ludo.
Ça va de soi. Donc, ils se livreront à un concours effréné dans un registre disco, dirons-nous.
Disco, ouais. Disco. Doris, elle adore. Doris est témoin. Tu peux pas nous faire un petit coup de disco comme ça, juste pour illustrer la chronique de Ludo? I got a chance to walk,
dont nous venons d'entendre un extrait, puisque c'était l'introduction de la chronique.
Tout à fait.
Trompette contre guitare.
Ça s'appelle comme ça ?
La compétition dont j'ai donné le titre de la chanson tout à l'heure. Et, oui, si, je, et si je le redonne, il y en a bien pour 2 minutes.
Non, je voulais juste savoir si c'était la traduction littérale. Bon, non, d'accord.
Trompette contre guitare, ils rivaliseront pour gagner le cœur de la belle.
Wow.
Évidemment, l'amour triomphera. Mais l'amour triomphera aussi.
L'amour choisira quoi ? La guitare ou la trompette ?
L'amour choisira, évidemment.
Ah, moi, je sais. L'amour choisit toujours la petite trompette. Je vous expliquerai.
Eh bien non, parce que c'était le guitariste à nouveau Tariq.
Évidemment, voilà, que c'est la guitare qui est gone.
C'est faux.
Mais là,
c'est pas crédible son histoire.
Vas-y.
Tu peux recommencer.
Vas-y, refais des films en même temps, on verra. Bon. Donc mais... là, c'est Tariq qui triomphe.
Tariq triomphe. Tariq triomphera sur cet amour, mais un flashback, car nous sommes dans le cinéma Masala, ne l'oublions pas.
Bien sûr.
Qui mixe comique, action, drame, considération sociale éventuellement. Le trompettiste, qui est également chanteur traditionnel, à l'occasion d'un flashback, interprétera, et c'est le point d'orgue du film, parce que la vraie question finalement c'est comment.
Un trompettiste, c'est un point d'orgue. Ouais, bravo. Ok, Burns, le trompettiste.
Le trompettiste est également chanteur traditionnel, et c'est vraiment l'un des grands intérêts de ces films, qui est comment, au bout de plusieurs années dans le cours de la narration, et parfois de plusieurs heures dans le cours du film, comment réunir des personnages désunis. Et là, la scène est fabuleuse. Le guitariste, lui aussi étudiant à Londres dans sa jeunesse, parce qu'évidemment le modèle occidental, etc., tombé amoureux d'une fille qu'il ne peut pas avoir parce que lui aussi est issu de basse classe.
Oh là 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 là.
Voilà, interprétera un Kwali qui est le jour. Il interprétera un Kwali le jour de l'indépendance. Et le Kwali, c'est un genre musical ultra populaire en Inde qui dérive du soufi. Alors il y a deux types de chansons de Kwali. Voilà, les hamd ou les mankabat, qui sont des chants dévotionnels dédiés à Allah, et les ghazal, qui sont les chants profanes célébrant le vin et l'amour. Il va de soi que dans le cas du film, on est dans le cas du chant profane.
Ouf.
Imagine la salle de concert.
Ouf, ça veut dire en hindi, ouais, qu'est-ce qu'on est content.
La disposition, donc. Voilà. D'un côté musicien.
Il peut pas.
Ça n'est pas radiophonique. Quand on fait des apartés, Ludo se tait. Non.
À ma droite.
C'est un alexandrin, ça, non ?
À ma droite, les musiciens et cœur masculin. À ma gauche, les musiciens et cœur féminin. Notre un des héros. Donc, voilà. Interprète la chanson Le Kwali masculin et, avant de l'entamer, défie le père de la jeune fille qui devait chanter dans le chœur féminin en précisant « Si ce Kwali n'est pas complété, ma vie restera incomplète et magie des sous-titres fait entièrement à la machine, ce sera l'avant-hier soir de ma vie. » Donc je m'interroge encore sur le sens.
Ah bah ça doit être du Ségolène Royal.
Et tout.
Je savais pas qu'avant d'être chef du PS, ça faisait des sous-titres dans les films indiens.
Ah ouais, non, il y en a des costauds.
L'avant-hier soir de ma vie.
Il y en a des très costauds. Et le
un
temps,
grand moment de bravitude.
Et le temps me manque. Tout l'enjeu, évidemment, durant ce Kwali, qui est absolument magnifique.
C'est quoi ce Kwali?
Ce Kwali, ah, s'il te plaît.
Expliquer ce que c'est.
Ouais, mais j'ai compris le Kwali, mais là j'ai compris le Kwali.
Magnifique vocalement, avec une vraie mise en scène. Tout l'enjeu est évidemment, est-ce que la fille assise à côté de son père va aller le rejoindre sur scène? Et ça marche.
Elle le fait.
On peut dire c'est du roman photo. On peut dire c'est de l'eau de rose, oui, parfois, par moment. On peut dire c'est du sentimentalisme exacerbé, certes.
Mais nous, on aime ça, Radio Apple Pie, le sentimentalisme exacerbé. Hein,
et quand,
quand on arrive à le dire, en tout
et
cas.
Quand ça fonctionne, ces points de retrouvailles qui sont l'enjeu fondamental du film, au-delà des barrières, au-delà de la question du destin qu'il faudrait aussi évoquer, quand ça fonctionne, c'est magnifique. Et ça éclipse les séquences d'action dont j'aurais pu parler pour leur montage
oui.
Quelque peu périlleux, mais le temps me manque.
En tous les cas,
Yann, Ya Donki Barat et Umki Sissé.
Allez, Barat Dom.
Deux films de Nassir Hussain. À dénicher, c'est possible au Havre, c'est possible sur le net.
À dénicher, c'est.
Allez-y.
Plongez-vous. À dénicher, c'est le distributeur.
Plongez-vous dedans, ça vous arrachera nécessairement des rires, des surprises et possiblement quelques larmes.
Mais bien sûr. Merci. Bravo. Bravo, une fois de plus. Bravo.
Est-ce que le Kouali, ça chante l'heure du thé dans la rue?
Est-ce que le Kouali chante l'heure du thé dans la rue?
Parce que le Kouali c'est street.
Ah oui. En plus, il me le susurra à l'oreille préambulamment. Bon, qu'est-ce qu'on écoute derrière? Parce que les mots manquent, mais la musique, non? Bah vas-y, mais le choix. Vas-y, mon chéri, l'histoire jugera.
Pas la collègue qui a eu lourd, mais 12 minutes.
Bravo, Ludo. Ah, ça ne marche pas, bah écoute.
Allô, alors.
Bah rien. Un grand moment de silence.
Ouais.
Aïe, aïe, Sama.
Amen, Damaël.
Aïe, aïe, Sama.
Damaël, Akasama.
Aïe, aïe, Sama.
Amen, Damaël.
Aïe, aïe, Sama.